Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
Yes.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It's mean like, what can happen, you know.
That's all. Aujourd'hui, on reçoit Willy Cartier. Impossible de coller une étiquette à ce touche-à-tout. Acteur, danseur et muse des plus grands designers. Une carrière hors du commun pour une personne pleine de surprises. En passant par la pub la plus chère de l'histoire aux défilés les plus prestigieux. Willy retrace son parcours en toute sincérité, de son enfance mouvementée au lancement de sa boîte de prod.
Bonjour Willy.
Hello.
Hello.
Ça
merci
va
d'être avec nous.
Bah, merci à vous de m'accueillir.
Comment tu vas?
Ça va super bien.
Ma forme.
Ouais, ça va très bien.
T'es le premier mannequin homme
D'accord.
qu'on reçoit.
Waouh.
Donc voilà, il va y avoir plein de questions.
Génial, je savais pas.
Ouais, okay. C'est cool. On a eu un peu, on a eu quelques mannequins sur des sujets plus ou moins liés à la mode.
Ouais.
Mais ouais.
Premier homme.
Et puis on commence avec le bon en plus.
C'est
qui valait. Le format du podcast c'est très biographique. Tu commences où tu veux, tu déroules tranquillement jusqu'à ce que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. Donc déjà d'où tu viens et ton parcours scolaire. Et petit à petit on déroule. Ça te va?
D'accord. Ok. Je commence déjà par mes parents.
Yes. Mmh.
Ma mère elle est d'origine vietnamienne et sénégalaise.
Ok. Déjà un sacré mélange.
Ouais, carrément. Elle est magnifique, elle est super belle. Et à chaque fois, plus tard, à chaque fois, on me prenait pour son petit frère.
Je me rappelle les photos à l'ancienne, je sais plus ce que tu mettais sur Instagram de ta mère, je me disais waouh.
Mais elle rajeunit encore, c'est ça qui est surprenant.
Elle a le combo good jeans en même temps, asiate plus africaine.
C'est surprenant. Et donc, au moment où moi je suis arrivé, au moment où j'ai été conçu, mes parents venaient de se rencontrer, mais surtout ma mère était très jeune. Elle avait vécu, elle vivait avec sa sœur et sa mère.
Mmh.
Et
quand tu dis très jeune, c'est qu'elle a...
Enfin, très jeune, c'est qu'elle a rencontré mon père très jeune.
Ok.
Parce qu'elle vivait avec sa sœur et sa mère et ils enchaînaient. Tu vous connaissez les auberges de jeunesse? Moi, je faisais ça à Londres. Elle vivait dans une chambre d'auberge avec donc c'était une chambre avec sa mère et sa sœur. Presque toute sa vie. Ouais. Et elle a été enfermée jusqu'à ses 18 ans. Et ensuite, à 18 ans, elle est partie et s'est essayé de
s'émanciper.
Ouais, et puis surtout, son rêve, c'était de faire quelque chose d'autre que ce qu'on lui avait imposé toute sa vie. Et elle s'est retrouvée à faire de la danse. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père, qui à l'époque était danseur. Aujourd'hui, il est peintre et écrivain. Et donc, ils se sont rencontrés. Et ensuite... mon père, qui lui est français, breton, au bout de quelques années, je suis apparu.
T'es fils unique ou...
Ouais, je suis fils unique.
Okay.
Et ensuite, ils ont divorcé quand j'avais 3 ou 4 ans. Mm-hmm. Mais avec beaucoup d'amour, ils sont restés amis jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, c'est bien ça, quand ça se passe comme ça.
Ouais, c'est mieux.
Ouais, c'est de la maturité.
Ouais,
c'est clair.
Sûr. Et donc,
t'as grandi où?
J'ai grandi dans le entre le 20e, le 18e et Aulnay-sous-Bois.
Ok. Nord de Paris.
Ouais.
Paris Nord, de ouf.
Exact. Donc j'ai passé ma scolarité dans le 20e, à côté de Gambetta.
Ok.
En tout cas l'école. Et c'était pas génial parce que en fait, comme mes parents ils sont artistes, ma mère elle avait une troupe qui s'appelait Brown Sugar. Donc en fait, c'était un groupe de danseurs, chanteurs afro-américains.
Mmh.
Et elle passait souvent à la télé pour faire des shows ou des choses comme ça. Et en fait, c'était très mal vu dans mon école d'avoir ma mère qui passait parfois dans les tenues un peu...
De danseuse, quoi. Juste.
De danseuse, exactement. Mmh. Et donc, de tous les profs, les directeurs et les parents d'élèves qui rentraient le soir... Et qui voyait ma mère en tenue de danseuse. Et puis en plus, c'était Brown Sugar, donc c'était un truc très africain, très afro-américain. Donc, c'est à l'époque, donc il y a 20 ans, ça passait pas du tout. Et de la voix et de savoir que c'était ma mère, j'avais des rapports très particuliers avec les professeurs.
Non, tu m'étonnes.
Et
ouais, ça a dû mettre la rage, quoi.
Ah ouais, ouais, c'était particulier.
T'as eu droit à toutes les petites, genre les blagues racisto, ouais. Pauvres, tout ça, j'imagine, du coup.
Ouais, ouais, c'était... À un moment, un jour, je sais que je suis revenu avec une cicatrice au cou parce que ma prof, elle aimait bien me maltraiter, je
crois. Arrête.
Ah ouais, vraiment. Mmh. Et je suis venu avec une trace au cou parce qu'elle me prenait souvent par le cou. Mais j'en parlais pas à ma mère, et ma mère a vu ça.
Elle a pété un câble.
Le lendemain, elle m'a accompagné
oh, wow.
à l'école. Et elle m'a dit, pointe-moi du doigt, c'est qui ta professeure? Parce qu'elle venait rarement à l'école. Elle était toujours occupée, bien sûr, à travailler. Et je lui ai dit, bah, c'est elle là-bas. Et ma prof, elle me voit la pointer du doigt.
Et ma mère,
elle a retiré ses boucles d'oreilles, ses chaussures. Elle a commencé à courser la prof. Et la prof, elle s'est réfugiée dans mon école. Et c'était impressionnant parce que bon, il y avait tous les autres parents. Il y avait le directeur de l'école qui était là. Non, arrêtez et tout. En même temps, tu touches au fils.
Non mais c'est une réaction légitime. Ouais.
Donc j'avais mes parents artistes très très passionnés et donc c'était j'ai commencé ma vie dans un cadre plutôt particulier. Ensuite ma mère a déménagé à Aulnay-sous-Bois et là-bas j'ai pas préféré. Parce que c'était...
La street.
Déjà, le 20e, bon, c'est... En termes de quartier, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais venant du 20e, justement, le Aulnay-sous-Bois, c'était... Quand je suis arrivé au collège à Aulnay-sous-Bois, tous les élèves m'ont dit, mais pourquoi ? Ils m'ont d'abord demandé d'où tu viens. Je dis, Paris. Et ils m'ont tous fait, mais pourquoi t'es là, quoi ? Pourquoi t'es venu chez nous, tu vois ?
Tu t'es perdu,
quoi. Ouais, exactement. Et j'étais tout petit. Mmh. Et je suis resté un bout de temps. Et en vrai, ça allait. Je m'étais fait des amis. Et puis, tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'il y ait des profs qui soient fait tabasser par des élèves ce jour-là. Mmh. Et on s'est fait entourer par les CRS et tout ça. Ça passait à la télé. Et je venais d'avoir un téléphone. Mon père m'envoie un texto et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et on ne pouvait plus sortir du collège et tout. Et finalement, bon, ça, en fin de journée, on nous a sortis. Et c'est là que mes parents ont décidé qu'il fallait que je bouge de Aulnay-sous-Bois. Mmh. Et donc, je suis arrivé dans le 18e.
Okay.
Un max d'Ormois.
Ok. Ouais.
On rentre dans Paris.
Ouais. Voilà. et voilà, non, j'ai une enfance... Enfin, moi, j'adore mon enfance parce qu'elle est particulière. Et puis surtout, j'ai des parents incroyables. Mais c'était mouvementé.
Ouais, mais t'as quand même une enfance baignée par le milieu artistique, la culture, ouais. Etc.
Bah,
ça, forcément, ça imprime un petit peu sur toi quelque
chose. Tous les mercredis soirs, j'étais en backstage à l'Opéra Bastille, parce que mon père dansait à l'Opéra de Bastille. Et tous les mercredis soirs, j'étais en backstage là-bas, oh, alors que j'étais comme ça.
Ouais.
Et je voyais tous les autres danseuses, danseurs classiques, toute la figuration, comment ça se passait.
Toi, ça te donne envie de danser,
j'ai pas demandé.
Ouais, bah après, après le collège, vu que j'étais pas bon du tout, on m'a bien fait comprendre que c'était pas nécessaire de continuer. Ça m'arrangeait d'ailleurs.
C'est bon, on a fait le tour de ce que j'avais à offrir.
Et ça m'arrangeait bien, et donc j'ai arrêté. Et ce même été, je crois que c'était à de la troisième, bah, j'ai un pote qui allait faire une audition dans une école qui s'appelait l'AID. Qui s'appelle toujours l'AID, l'École Internationale de la Danse, à Victor Hugo, à Paris. Et donc je l'ai accompagné, et puis une fois là-bas, on m'a dit, bah, si ton pote fait l'audition, pourquoi tu la fais pas? J'étais là, mais j'ai rien pris, et on m'a prêté un survêt, et j'ai fait l'audition.
Et toi, t'avais déjà dansé chez toi un truc ou...
Avec mon pote, on faisait du dancehall, et avec l'influence de ma mère et tout ça, souvent j'allais... dans des écoles qui n'existent plus, mais un peu comme Harmonique, où je faisais des cours de danse, new style, hip-hop. Mmh. Et donc, j'ai auditionné avec mon ami dans cette école, et j'ai été pris, et pas lui. Oh, wow. Mais en fait,
c'est un classique de casting, ça.
Non, mais c'est un truc de film,
ouais,
à fond, ça.
Mais c'est surtout que lui, il n'a pas été pris. Je pense qu'il y avait aussi parce qu'il n'avait pas de papier français.
Ah oui, d'accord.
Et,
merci pour ce contexte.
Bah oui, je veux dire, mon pote était très bon. Il est même meilleur que moi. Mais moi, moi, j'étais juste bon et on m'a juste pris. Tandis que lui, il aurait pu être aussi bien pris que moi, c'est juste que au final, c'est son manque de papier a fait qu'il a pas pu être intégré.
Okay.
Et donc voilà, j'ai commencé cette école de danse et de théâtre où je faisais 5 heures de danse tous les matins, classique, contemporain, moderne, jazz, et 2 heures de théâtre tous les soirs. Ouais.
T'as fait Unde Stress.
Exactement.
Pour ceux qui auront la ref.
Putain. Putain, j'avais oublié cette série.
Mmh.
Ouais.
Ok, ça te plaît, ça? Tu te sens comment dans cette école? T'as l'impression d'avoir trouvé un truc qui
à ce
correspond
moment-là, non, ça me plaisait pas du tout. Parce que collant obligatoire.
Mmh. Ouais, quand, si tu viens du New Style, du hip-hop, c'est pas la même.
Puis quand tu viens d'Aulnay, et que. Enfin voilà. Heureusement, j'ai un parcours avec des. Où j'étais en backstage avec ma mère qui avait des amis gays, transsexuels, très hétéros, hip-hop, tout. Et j'ai vu ça toute mon enfance. Donc, heureusement que j'ai été éduqué dans cette ouverture d'esprit.
Ouais.
Donc, bien sûr, mettre des collants, ça m'a pas enchanté pour commencer mes premiers cours de classique à 8h du matin. Mais en vrai, au bout de 6 mois, je suis tombé amoureux de la danse classique. Ça, okay. ça m'a changé ma vie. Parce que aussi, quand j'étais petit, j'étais très, très gros jusqu'à mes 14 ans.
Okay.
Et ensuite, j'ai décidé de faire des efforts sur moi-même parce que je voyais bien qu'on me regardait d'une manière qui n'était pas celle que moi, je voyais. Enfin, j'avais l'impression de savoir qui j'étais, mais les gens me regardaient comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et je voyais bien que c'était par rapport à mon aspect physique. Et ça me faisait vachement souffrir. Et du coup, à 14 ans, je me suis dit, bon, je peux aussi faire quelque chose. Et donc, j'ai décidé de changer mon alimentation et de travailler là-dessus. Mais c'était très dur, ça a duré très longtemps. Et cette école de danse et de théâtre, ça m'a aussi complètement changé mon corps.
Ah bah évidemment, avec ce rythme-là.
Voilà. Ouais. Et
4 heures de danse par jour, tous les jours de la
semaine. C'est ça. Et donc c'était incroyable, et c'est à partir de là que tout a changé un peu pour moi aussi. Donc mon corps a changé, et je faisais de la figuration depuis que j'avais 13 ans, pour me faire des petits cachets, des petits trucs et tout. Donc j'essayais de faire de la figuration partout parce que le cinéma, ça me passionnait. Donc depuis que j'avais 13 ans, tous les ans je trouvais des tournages sur lesquels je pouvais faire de la figure. Jusqu'à ce que je trouve un agent de cinéma pour jeunes.
Okay.
Et il ne s'était jamais rien passé, jusqu'à ce que je change physiquement un peu. Et donc, quand j'intègre l'école de danse, un an plus tard, j'ai mon premier rôle sur M6, sur une série sur la contraception pour jeunes. Et c'était genre des jeunes qui se retrouvent dans une pièce de théâtre de leur bahut pour discuter avec un prof de la contraception et tout ça. Donc c'était un tournage incroyable pour moi. Parce que...
Là, t'as quel âge ?
Là, je crois que j'ai 16 ans.
Ok.
Et c'est là, sur le tournage, où je me suis dit, putain, c'est ça que ça, ce serait mon idéal dans ma vie, quoi. De faire des tournages, d'apprendre des textes et de faire des trucs comme ça, quoi. Et donc, je continue mon école de danse et de théâtre et ensuite, déjà j'avais du mal à suivre l'école au bout d'un an à cause du tournage et à cause de plein d'autres choses que j'essayais de faire à côté parce que je sentais bien que c'était maintenant ou jamais. Et
tu te mets à fond dedans, quoi.
Je me mets à fond partout dans tout parce qu'en fait je commençais aussi à comprendre que toutes plein de choses que j'avais vécues avant c'était pas juste tout ce que j'ai pu traverser dans le 18e, où je trouvais pas d'amis, je me faisais vraiment maltraiter au collège. Pareil à Aulnay-sous-Bois, genre je passais des trimestres à me faire cracher dans mon sandwich à la cantine.
Oh non.
Wow.
Ouais, enfin, ça arrive. Hein. Mais, Mais du coup, en grandissant, plus mon corps changeait, plus je faisais aussi ce que j'aime, danser, faire de la figuration, faire des tournages, plus je comprenais qu'en fait, on m'avait rentré n'importe quoi dans le crâne. De me dire que ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'école, ce qu'il faut que tu fasses, c'est avoir des bonnes notes, et ce qu'il faut surtout, c'est de savoir ce que tu veux faire plus tard, et quelle direction tu vas prendre, quelle direction professionnelle tu vas avoir. Et en fait, ça m'avait vraiment opprimé. Le seul sens que ça avait pour moi, tout ça, c'était de me faire comprendre que j'étais de la merde, quoi. Que j'étais un moins que rien et que j'étais bon nulle part.
Et tu réussis dès ce jeune âge à te déprogrammer de tout ça, c'est super rare. Les gens, souvent, c'est après des années ou de la thérapie ou d'avoir vu des trucs. Toi, tu le comprends assez jeune, t'as même pas 18 ans du coup quand tu décides de.
Dès que je suis sorti du collège, en fait. Dès que je suis sorti du collège, j'ai juste eu la liberté de tester pour la première fois de ma vie des vraies choses plutôt que de faire le robot et aller constamment à l'école et tout. Enfin, après il y en a, ils adorent ça et puis ils sont super bons, mais moi c'était opprimant pour moi. Et puis j'ai changé 8 fois de collège, pour être honnête. C'est dur d'exceller dans une matière quand tu changes 8 fois de collège, mais parce que j'ai déménagé, parce que j'ai aussi mon père qui a failli frapper
un de mes directeurs. Bien frappé les enseignants de ta famille.
Je vous ai dit, ils sont très passionnés, mes parents. Et du coup, ma scolarité, c'était un flop. Mais en sortant de là, j'ai enfin pu apprendre à devenir moi-même.
Ouais.
Et donc, en faisant de la danse, en faisant de la figuration, en bookant mon premier rôle sur M6. Enfin, je veux dire, je viens du fin fond du 20e, de Aulnay-sous-Bois, de trucs où justement, on veut faire croire aux gens qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Ou pas plus que ce qu'on leur propose. Enfin, moi, ça a été pesant, ça, pour moi. Et donc, voilà, premier rôle sur M6. Ensuite, à ce moment-là, je fais une série je crois que c'était pour TF1, qui s'appelait Strictement Platonique, où j'étais rôle principal avec Baptiste Le Caplain.
Ouais.
Et c'était le premier rôle de Baptiste Le Caplain, c'était mon premier vrai rôle dans une série, et c'était une série pour enfants, où le mec, il a un livre où il note des trucs, et tout ce qu'il note, ça se réalise.
Et putain, du coup, il le faut ce livre-là. Toi, tu l'embarques.
Ouais, mais en fait, ça, si je me souviens bien, c'était un truc comme ça, mais en fait, ça a foutu la grosse merde.
Okay.
Dans sa vie, dans notre vie, parce qu'il était amoureux de ma sœur. il marquait n'importe quoi dans le livre.
C'était Death Note.
Et ça se passait jamais bien.
Okay.
Et c'était super, c'est passé à la télé. Puis moi, ado, faire une série comme ça... Non, je sais pas, ça, il se passait déjà beaucoup de choses, jusqu'à ce que ensuite je revois une directrice de casting que j'avais pas vue, Henriette Brune, je crois qu'elle s'appelle, que j'avais pas vue depuis que j'étais ado, quand je faisais j'oublie toujours ce mot, de la figuration, et je la revois 4 ans plus tard quand je suis enfin grand, en tout cas j'ai presque 18 ans, mon corps a changé, j'ai fait 2-3 tournages. Et je la revois pour un casting et elle me reconnaît pas.
Ah, tellement t'as changé.
Ah non, non, il y avait un gros changement entre à 14 ans et à 18 ans. Et elle me reconnaît pas et elle reste. Elle bug comme ça devant moi, elle fait mais on s'est déjà vu. Je fais mais c'était il y a 4 ans, tu te souviens pas et tout. Et j'ai dû lui montrer une photo de moi.
Oh, putain.
Et elle était choquée, on a parlé, ça l'a fait rire et elle m'a proposé de la rejoindre le lendemain parce qu'elle voulait me présenter à l'époque le directeur de l'agence Success, qui est une agence de mannequins qui existe toujours aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Et je lui dis, le mannequinat, moi je connaissais H&M et Chanel, c'est tout.
Il
y avait zéro. Moi, ma mère, elle m'habillait, et j'ai pas honte, elle m'habillait chez Tati dans le 18e. Et j'avais le même jean de chez Tati avec 4 poches là. Avec les chaussures que je kiffais, qui venaient de la Halle aux chaussures.
Halle aux chaussures, bien sûr.
Et j'avais mes t-shirts que je découpais moi-même. que je déchirais et tout. Et en fait, je faisais mes propres vêtements et j'étais très content et je connaissais rien à la mode.
Ouais.
Et donc, le lendemain, je l'accompagne à son dîner avec le directeur de l'agence Success. Et on parle. Et il me dit, ouais, il faut que tu passes à l'agence demain. Donc, je fais, ah, ok. Je sais aussi que c'est bien de voir les gens. Mmh. Déjà, à mon âge, de toute manière, j'avais envie de faire tout. Donc, ouais. je m'attendais pas au tournant que ça allait prendre après ce rendez-vous. Donc le lendemain, je passe à l'agence et je rencontre les agents de chez Success, donc Catherine, Jean-Jacques, Yana et Patsy aussi. Et donc j'arrive, ils me regardent, je revois les photos, j'étais très étrange, j'avais des cheveux très longs, jusqu'à en bas de mon ventre, j'avais des décolletés comme ça parce que je découpais mes t-shirts.
Ouais.
Et j'étais bizarre, quoi. Mais j'étais moi. Je devenais moi.
Ouais.
Et ils m'ont dit... je crois que c'est Liana qui dit « Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. On fait quoi ?»« Bon, bah, repasse, mais on va te signer. » J'étais « Ok. »
Tu te rends compte quand même quand tu rentres que c'est une agence qui est très, très haute dans le niveau... Non, tu ne te rends même pas compte.
Pas du tout. Pas du tout. Quelques semaines plus tard, il m'envoie un casting pour un truc où j'arrive avec mon book où je crois que j'avais une photo de classe dans mon book parce que j'avais pas vraiment de photo, donc c'était un portrait, je crois.
C'est hyper drôle.
Ouais. Et donc je vais à l'audition et il y avait que des filles, mais des filles immenses, très minces, grandes. Et puis moi. En plus, j'avais pas eu d'amis, j'avais pas vraiment connu une relation amie ou jusqu'à très tard, et encore moins une relation avec des filles, quoi.
Avec des jolies filles.
Ouais. Du coup, moi, les filles, pour moi, je pouvais très vite perdre toute une notion. Genre, le temps s'arrêtait très souvent dans la journée. et donc, j'arrive, il y a toutes ces filles et tout, et je suis là, je fais bon, je suis le seul garçon, bah, j'attends. Et j'ai attendu, je crois, 2h30. Et enfin, c'était mon tour. Et j'arrive. Et je rentre derrière le rideau. Je fais bonjour. Personne ne me dit bonjour. Je donne mon book. Il l'ouvre. Il passe la deuxième page. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Je vois qu'ils rigolent. Ils me rendent le book.
Enfin,
et j'attends.
La feuille, du coup.
La feuille. Et j'attends parce que, bon, juste dis-moi ce que je fais, tu vois. J'attends. Ils se remettent à bosser dans leur truc et tout. Et ils voient que je suis encore là. Ils font « You can go ». Et j'étais là. « Ah, ok. » Et je suis parti, mais bredouille. Mais je ne comprenais pas le principe d'un casting comme ça. Ouais. Sachant que moi, j'avais fait des auditions.
Mais c'est ce que j'allais dire. Les auditions versus un casting mode, pour toi, c'est quoi le...
Bah, une audition, t'as au moins 2-3 pages à apprendre. C'est stressant. Tu le travailles, tu t'en parles, tu t'essayes de faire le texte avec d'autres personnes.
Ouais.
Et quand t'arrives, t'as
t'es trois... au moins sûr qu'on t'écoute dire ton truc. Quoi.
Bah, obligé. Enfin, il y a un échange, il y a quelque chose, et puis tu sais si t'as fait quelque chose de mal ou pas. Et puis t'as des... Attends, peut-être tu peux l'essayer comme ça, tu pourrais le redire, mais un peu plus d'intonation à ce moment-là.
Ouais.
Mais là, j'arrive, j'ai attendu 2h30, et
ça dure une minute,
on se moque de moi. Et en plus, on me dit même pas de partir.
Tu te rappelles de quelle marque c'était ? Ah, on dit pas les blagues.
moi, ça me dérange pas. C'était Bill Tornage, je crois.
Ah ouais, ok.
Et plus tard, ils ont rappelé mon agence pour que je travaille pour eux. Et j'ai dit non, bien sûr.
Ça, c'est la meilleure des vengeances.
Les vengeances. Ouais.
Et donc, à partir de là, j'ai quand même dit à Success que c'était pas mon truc et que j'avais pas envie.
Ouais, c'est une première expérience qui est dure.
Qui est dur, ouais, c'est juste, j'avais tellement d'autres trucs à côté, je me suis dit, non, clairement, c'est pas mon monde, j'ai vu toutes les filles étaient immenses et tout, je vais pas, j'ai danse tous les matins, j'ai acting tous les après-midi, et j'ai d'autres trucs dans lesquels je veux foncer, donc je peux pas, j'ai pas envie de, déjà, je faisais tellement de travail émotionnellement et intérieurement pour reprendre confiance en moi, et pour me persuader que j'étais capable de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Je me suis dit, si je m'en tape un par semaine comme ça, je vais pas y arriver.
Ça va terminer, ouais, c'est sûr.
Donc j'ai dit à Success que c'était mort. Et un mois plus tard, il y a Success qui m'appelle et qui me dit, on veut juste que tu essayes celui-ci, c'est le dernier. On fait un test. Ils veulent vraiment te voir pour le coup, donc.
Ça va bien se passer.
Ouais, voilà. Je fais OK, c'est où, c'est quoi? Ils font c'est Givenchy et c'est à telle adresse. Et je suis là, je fais j'ai quoi? mais ça veut dire quoi? C'est quoi comme langue? Bon bah c'est je sais pas, c'est italien ou je sais pas. Je fais OK, c'est oh, il m'amène à une vieille marque. C'est j'y vais parce que j'essaye d'être pro et parce que je fais confiance au karma et aussi si les choses qui viennent vers moi, faut quand même, tu vois. Mais tout le trajet, je me rappelle, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux nom, putain. Moi, je suis là, je viens de là d'où je viens, je suis là, je fais, mais Givenchy, mais ça sonne, c'est moche.
Givenchy.
Ouais. Et je fais, qu'est-ce que ça va être comme expérience encore? Et j'arrive à l'adresse, Alma Marceau, et je vois l'entrée.
Ouais, là, tu comprends.
Et là, je fais, attends.
C'est bien là.
Déjà, je suis jamais venu ici alors que je suis parisien.
Puis il y a le gros logo exact. En or sur ouais. Tout l'étage.
Je suis okay. Bon, je ferai des recherches quand je rentre chez moi quand même. Et j'arrive. Et au moment où j'arrive, c'est une accueil incroyable. Oh Willy, merci d'être venu. Bon, bah, on t'amène faire les essayages. Je fais les essayages. Il y a trois personnes qui sont sur moi, dont une, je me rappelle plus de son nom, mais elle était tellement gentille. Et elle travaillait directement avec Ricardo. Mm. Et elle m'habille et elle me dit « Sache que il a voulu te voir, il aime beaucoup ton profil et tout. » Et il m'habille et il me met des vêtements. Je suis là, je fais « Ok. » Des collants rouges, une semi-jupe.
Un truc comme ça.
Exactement.
Ouais, c'est l'époque du kilt.
Et je suis là, je fais « Waouh, les gars, bon, ok. » Et là, ils me disent « Bon, écoute, on va ouvrir cette porte, il sera au bout, assis. » Tu dis ni bonjour, ni au revoir. Tu rentres, tu fais un aller-retour et tu reviens. Tu dis rien, juste tu marches.
J'imagine ta tête.
Dans ma tête, je me dis, mais quel monde, franchement, quelle arrogance, ces gens, tu vois. Mais vraiment, je fais, c'est fou. Bref, ok, je vais le faire. Et donc, ils ouvrent la porte, mais aussi le stress qui monte pour rien, quoi. Et donc, je ouvre la porte et je vois Ricardo sur un trône.
Arrête.
Ouais. Sur un trône en rouge velours et tout. Mais en vrai, la classe, avec les gens qui travaillent avec lui, assis à côté de lui, c'est presque... on pouvait shooter une campagne. Là, quoi. Ouais. Et je vois ça, en ouvrant la porte, j'ai eu un... J'ai fait comme ça. Et je me suis contenu, j'avais envie de rire, parce que c'était un peu trop pour moi.
Ouais.
Et je fais, bon, allez, vas-y. Et je marche, mais j'étais pas content. Donc je marche en mode, tout ça, franchement, ça me fait chier, tu vois. Donc je marche vite et j'ai juste envie de me barrer et je rentre. Et je ressors, je me déshabille, je reprends mes vêtements et la meuf qui était gentille avec moi, elle revient vers moi et elle me dit, t'es son préféré, il t'a adoré. Tu vois, et je suis là, je fais, wow, ça veut dire quoi et tout, non. Écoute, vas-y, ton agence va t'appeler et on se revoit demain. Comme ça, tu vois. En fait, je pense que l'idée d'avoir été fâché et d'avoir marché très vite...
Ouais, c'était le mot qu'il fallait, en fait.
Exactement.
C'était l'énergie.
Et à partir de là, bah, j'ai fait campagne, Givenchy...
Ah, direct, là, donc ça, c'était le casting pour le show. On est
ouais.
D'accord.
Ouais, c'était donc, le là, casting pour le show. Je fais le show. Ensuite, là, j'avais encore 17 ans. Mm-hmm. Je fais le show et là, je commence à découvrir un monde... C'était ultra impressionnant, il y avait tout le monde au show et tout. Et déjà, c'est tout à coup, je en fait, c'est tout est choquant pour moi. Il y a un mec qui s'appelle Ricardo qui est ultra respectueux avec moi. Et ce mec tient le monde de la mode à ce moment-là dans sa main.
Ouais.
Et littéralement, ça se voyait quand on se préparait, quand on faisait les shows, qu'il était constamment en train de me regarder. Et donc, j'avais les meilleures tenues, les meilleurs trucs.
Ouais, t'es devenu s'amuse en fait.
Exactement.
Mmh, exactement, ouais.
Et donc, le show se termine. Il vient, il me dit merci, il me dit comment j'ai vécu le truc et tout. Sachant que moi, je parlais pas anglais. Hein. Faut comprendre qu'avec la scolarité que j'ai eue,
l'anglais, c'est pas une priorité.
J'allais dire yes, no et maybe, quoi.
Et, donc là, c'était plutôt yes.
Ouais. J'étais là, yes. Et donc, je rentre chez moi. Et donc là, j'ai 17 ans et j'habite chez mon père et ma belle-mère. Et je vivais dans la même chambre avec mes deux demi-sœurs.
Okay.
Donc, il y avait la grande sœur qui était en haut de la mezzanine. On appelle ça une mezzanine
ouais. Ou un superposé.
Superposé, une place. Donc, elle était en haut. Ouais. Ma petite sœur était en bas et moi j'avais mon matelas.
Dans le lit qui se tire
exact.
En dessous.
J'avais mon bien matelas sûr. En dessous ouais. qui se tirait. Mm-hmm. Et à 17 ans, ça faisait en vrai depuis que j'avais 14 ans, donc 14, 15, 16, 17, ça faisait 4 ans que je vivais
dans ce lit,
à 3 dans la même chambre, et donc dans le 10e rue d'Anguin. Mais pour moi, comparé à Aulnay et tout ça, j'étais au paradis. J'étais, même si à l'intérieur, on vivait dans un appart minuscule, on vivait dans un deux pièces, mais c'était le paradis. Genre, j'étais à Paris, les gens de mon âge prenaient des cafés et fumaient la cigarette. Pour moi, c'était un choc de voir ça. Parce que nous, à Aulnay-sous-Bois, on terminait le collège, moi je rentrais tête baissée chez moi. Et c'est tout. Et ensuite, je faisais mes devoirs et je retournais au collège le lendemain. Et le week-end, je restais chez moi. Là, à Paris, dans le 10e, les gens de mon âge, ils étaient déjà café-clope, quoi. Après les cours. Tout ça se rejoindre dans le café parisien et tout. C'est, pour moi, c'était... J'étais au paradis, franchement. Dans le 10e, c'était génial. Et donc...
Ce premier show, tu vois.
Premier show.
Ouais.
Je rentre chez moi, donc après avoir fait Givenchy, je rentre chez moi et je dors dans mon petit matelas. J'en parle à tout le monde et tout, et je reçois un appel de mon agence qui me demande si je serais chaud d'aller à New York dans 2 jours. Je fais mais pour faire quoi? C'est pour faire la campagne internationale de Benetton. Je fais mais quoi? Et Benetton, il a fallu m'expliquer encore ce que c'était et tout, nan. Et je fais, mais New York, mais... Et là, ils m'ont
dit... T'as un passeport, déjà, ou pas?
J'ai un passeport.
Okay,
j'ai un passeport. Et donc, le prix que j'ai été payé, c'était n'importe quoi. Mais c'est même plus ça. Pour moi, c'est à 17 ans, on me demande d'aller à New York.
Ouais. Dans 2 jours. Pas le truc de... Ah ouais. Tu sais que tu parles en 3 mois.
Non, c'est dans 2 jours, il faut partir à New York, et tu parles pas un mot anglais. Et c'est... Enfin bref, et c'était un choc. Donc bien sûr, je dis oui, mon père très content, tout le monde surpris. Enfin, et puis les choses là commencent à se passer très très vite, quoi. Déjà, on était très contents que je passe à la télé dans une série. Mais là, c'est un autre monde. En fait, le monde de la mode, tout est tellement plus en fait. C'est une caricature à chaque fois de plein de choses, quoi. Et
c'est extra, c'est extra,
c'est ultra extra. Genre, j'ai fait une série sur M6, ça a pris tant de temps, c'était 6 mois de tournage le truc, et bon, ça a fait un peu de bruit, mais dans mon quartier, c'est oh, il est passé à la télé, je fais un show Givenchy, le monde entier pète un câble, et c'est qui ce mec aux cheveux longs à Paris, quoi. Et donc, je fais le show, 2 jours plus tard, je pars à New York,
c'est ouf.
Pour Benetton. C'est fou quand même.
Merci vos grenouilles.
Oh là, c'est fou.
Et tu te dis quoi du coup? Tu te dis vas-y, je me prends un peu de temps, j'essaie de voir ce que ça peut donner cette carrière mode. Par rapport à l'école et tout.
Non, je me pose zéro question, c'est je fais ce qui est bien pour moi. Et donc l'école, j'ai rien dit à personne, j'étais juste absent. Et bien sûr, je fonce à New York. Et donc je prends l'avion et j'arrive à New York et là. New York, c'était... On me prend en taxi, on m'amène à l'hôtel, je rencontre l'équipe et ensuite on va dans un studio au bord de Manhattan où il y avait tout l'océan devant moi.
Pier 59.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Et donc c'était une ouverture de gros garage, mais à l'américaine de ouf. Et ensuite on avait tous les studios à l'intérieur, c'était extraordinaire. Et moi, je suis là, je commençais tout juste à fumer, donc j'avais mes clopes.
Ah,
ouais. Les Parisiens qui
premier exact. Cachet reçu, ouais. Premier paquet de cachet acheté. Hein.
Et donc, je suis à New York, j'ai mes clopes, et je suis là, je fais, mais il se passe quoi? Et je me rappelle, petite anecdote, pendant le tournage, il y a donc de la campagne, il y a une des stylistes qui me fait du rentre-dedans. Mais moi, je parlais pas anglais. Donc elle parlait avec les mains. Et en gros, elle m'a proposé d'avoir un verre dans Manhattan plus tard ce jour-là ou le lendemain. Et je suis là, Moi, tout ce que je sais dire, c'est
yes, no, no maybe.
Et là, c'est plutôt yes ou non.
Non, je suis là, je fais yeah. Yes. Et elle est là, toute contente, ok, et tout. Et donc, je shoot ce jour-là, je shoot le lendemain. Et le lendemain soir, c'est la veille de mon départ, je repars le jour d'après. Donc, on va boire un verre. Et je me dis, bon, c'est bizarre, elle a bien 10 ans de plus que moi. Mais en même temps, voilà, je suis à New York, moi, je suis...
Tu vis le moment.
Ouais, je vis le moment. Ouais. Et puis,
tu connaissais pas grand monde, tu débarques, t'es tout seul, quoi.
Non, je connaissais personne. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle me propose de visiter la ville et d'aller quelque part, quoi. Mm. Donc, elle m'emmène dans cette place que je trouve incroyable, dans ce café qui est, mais comme dans les films, quoi. Mm. C'était extraordinaire. C'était un Starbucks, en vrai. Mm. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était rien
ouais,
de plus
mais,
que ça.
Tu sais, enfin, moi, je crois, je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais quand t'arrives à New York ou quand t'arrives aux États-Unis de manière générale, tu te rends compte à quel point les Américains sont rentrés dans ta tête quand t'étais gamin.
C'est ça. C'est l'éducation, la télé. Ouais. C'est la télé, c'est Disney, c'est tout ça. Et donc, j'arrive dans le bar, dans le café, on est assis face à face et tant bien que mal, on essaie de
converser.
Ouais. Et la fille se met à pleurer. En sanglots.
Arrête.
Ouais.
Don't leave, Willy, don't leave.
Mais elle se met à pleurer en sanglots, mais sans raison. Et moi, je suis là, je n'ai pas de mots. Juste dire rien que pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Mais surtout, j'essaie de lui toucher. J'essaie de lui toucher la main et je lui dis, je sais même pas quoi lui dire. Juste, je lui caressais l'épaule ou la main. Et à ce moment-là, elle pleure encore plus.
Wow.
Et je suis là, je fais, mais qu'est-ce que je peux faire? Ça devient gênant, tout le monde regarde et tout. Non. Et c'est le seul truc que
je rigole, mais c'est pas drôle.
Le seul truc que j'ai su faire.
C'est dire casser.
Non, qu'est-ce que je connais en anglais? Moi, j'étais fan de Michael Jackson. Donc, je fais, qu'est-ce que je fais? Et là, je fais, oh, je sais. Je lui touche la main et je la regarde et je fais, no woman, no cry. No woman, no cry. Parce qu'en plus, ça veut pas du tout. Non, ça, c'est autre chose, excuse-moi. Donc oui, Stéphane, Michael Jackson, c'est une chose, mais ça, c'est Bob Marley, bien sûr.
Ouais, mais c'est la bonne ref qui sort, n'empêche.
Ouais, c'est la bonne ref. Et non, parce qu'en fait, il m'arrivait un truc similaire et j'ai utilisé Michael Jackson. Mais là, c'était Bob Marley. Et je fais no, oh man, no cry. Et la meuf, elle me regarde et elle s'arrête de pleurer. Et je me dis,
oh. Ah yes.
Et en fait, elle s'est mise à pleurer 3 fois plus.
Oh non, putain.
Et je me dis, bon, moi là, je peux rien faire et je m'en vais, en fait. Parce qu'en vrai, elle a 10 ans de plus que moi. C'était pour moi,
c'est gênant, quoi.
Ouais, puis même c'est dangereux, genre je m'en vais demain, je peux pas, j'étais perdu, je savais même pas où elle m'avait mis dans Manhattan. Plus tard je découvre que c'était Union Square, mais donc je sors et je trouve un moyen de dire à un taxi où je devais aller, donc mon hôtel, et je rentre et je repars à Paris, quoi.
Mais attends, on sait pourquoi elle s'est mise à pleurer ou pas? Mais tu vas nous laisser dans un suspense.
Jamais.
Ah, à ce jour, tu sais pas pourquoi elle s'est mise à pleurer?
Jamais.
Oh, punaise.
Ça doit être un truc avec la fashion.
Ouais. Ou alors, elle s'est juste dit, qu'est-ce que je fais à mon âge? À prendre un mec qui est sur un shooting, qui parle pas anglais, et à l'inviter.
Peut-être.
Nous ne saurons jamais.
On ne saura jamais.
Mais cette première expérience, elle est... Enfin, à part cette
non,
crise
mais
de larmes.
Non, même ça, j'ai trouvé ça... Enfin, je veux dire...
Tu t'as vécu un drame américain, quoi.
Oui, voilà. C'est tout à coup, je viens de tout là-bas, et là, je me retrouve à New York en train de vivre des trucs. Non, tout était génial. Et je rentre à Paris. Et donc, on me propose d'aller à Milan pour une prochaine Fashion Week, et je dis oui. Et entre-temps, je shoot la campagne Givenchy.
Donc tu shootes la campagne avec Merten Marcus.
Voilà, et donc en DA quand même Ricardo.
Ah bien sûr.
Et donc cette campagne, je la shoot avec Léati, qui est la
première... Muse.
L'autre muse transsexuelle de Ricardo. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a pris une ampleur de ouf, c'est que la vision de Ricardo, elle a été très courageuse en fait. À l'époque, de dire, bah, je viens tout juste de prendre possession de Givenchy, je vais faire une campagne avec en plus une transsexuelle. C'était fort, quoi. C'était extraordinaire. Et puis moi, finalement, c'était dans mon parcours, c'était, je sais pas, quelque part, j'ai passé toute mon enfance dans des backstage avec ma mère danseuse, mon père danseur, avec leurs meilleurs amis transsexuels et drag queen et gay et d'autres incroyables artistes hétéros, où je me dis, c'est vrai que quelque part, il y a des choses qui make sense. Mmh. Je participe à des projets qui, eux aussi, sont très controversés et osés. Et aussi, je pense que c'est d'avoir cette liberté, cette ouverture d'esprit, tout jeune, qui fait que j'ai pu m'entourer de gens avec qui j'ai pu créer vraiment des affinités.
Dans le monde de la mode. Tu t'es pas limité de dire « Ah non, j'ai pas envie de trucs, de machin. » Pour toi, ça n'a pas été une question. Tu dis « Allez, on shoot, let's go. » Et c'est un kiff.
C'est la première fois de ma vie que je me retrouvais à faire des amis à gogo. Mmh. Où j'allais, je me retrouvais plus tard à New York. Je rencontre mais des peintres, des producteurs de musique et tout. Et en fait, à l'époque, il fallait se cacher de tout. Sauf que pour plein de choses, leur vie privée, leur vie amoureuse, leur vie, leurs orientations sexuelles et tout. Et moi, je viens de Paris où, de toute manière, j'ai été éduqué à l'encontre de tout ça. Mmh. J'aurais plus tendance à me lier d'amitié et d'affinité avec quelqu'un qui est extraverti, qui est quelque chose d'autre que la normale, quoi. Mmh. Et donc, c'est grâce à ça. En voyageant partout, le fait que j'ai un regard affectueux avec les gens les plus extravagants et les gens que je pense la plupart des gens regarderaient de travers, bah, ça fait que j'ai vraiment créé des liens avec des gens et des artistes extraordinaires.
Et donc là, du coup, ta carrière a pick-up vraiment. Première grosse campagne qui est vraiment vue par tout le monde dans la mode. Ouais. Ça fait un boost de plus, j'imagine.
Ouais, bien sûr. C'est là que tout a commencé dans la mode pour moi. Ensuite, je vais à Milan. À Milan, y a Benetton qui a affiché, mais sur des écrans de 3 étages partout, sur la place principale. Et je me vois, j'avais oublié que j'avais shooté ça il y a un mois parce que j'avais enchaîné tellement d'autres trucs après. Mmh. Et ensuite, Jean-Paul Gaultier, que je rencontre. Pareil, je fais une audition, je commençais enfin à m'habiller avec d'autres choses que des t-shirts déchirés. mais là, j'avais récupéré le manteau en cachemire bleu nuit de mon grand-père qui était décédé 2 ans avant ma naissance. Et ce manteau, je l'avais récupéré en Bretagne. Et depuis, je ne le quittais plus. Je portais que ce manteau. C'était un long manteau de marin, parce qu'il était marin. Mmh. Et donc, il m'arrivait jusque-là. Et en fait,
On sent le truc venir, là. Jean-Paul Gaultier, ouais. Marin, vas-y.
Et en fait, ouais, mais c'est fou. Parce qu'en vrai, j'étais encore plein de complexes à 18 ans. Mais vraiment, tous les complexes que j'avais quand j'étais en surpoids, je les gardais. Hein. Donc j'étais obligé de mettre ma main comme ça sur mon t-shirt tout le temps parce que j'avais pas envie qu'on voit mes bourrelets que j'avais plus. Mmh. Je marchais d'une certaine manière. Et en fait, les longs manteaux, ça m'arrangeait complètement. Parce que j'avais toujours ces complexes qui n'existaient plus physiquement, mais je les gardais en moi.
Ouais.
Et donc ça avait influencé complètement mon style. Donc j'étais tout le temps en long manteau.
C'était cap d'invisibilité.
Ouais, exactement. Et donc j'avais ce long manteau marin, bleu marin et bleu marine et j'avais mon style, les cheveux lâchés, des bagues et tout. Je commençais vraiment à être ce que j'avais jamais pu être depuis jusqu'à mes 17 ans, quoi. Et j'arrive chez le bureau Jean-Paul Gaultier, qui est toujours le même aujourd'hui, hein, qui est génial et qui en plus était à côté de là où j'habitais, dans le 10e. Et donc j'arrive et puis je sais pas, je suis rentré dans la pièce et tout de suite il m'a fait un sourire immense. Je suis là, je fais salut. et depuis, à ce moment-là, je crois que j'ai enchaîné 4, 5, 6 shows Jean-Paul Gaultier et les shootings, et puis j'étais toujours là-bas, quoi.
Ouais.
C'était incroyable.
C'est une vraie famille là-bas.
Ouais.
Et pareil, je reviens du coup sur l'expérience avec Ricardo Tisci. Tu as aussi noué ce lien avec lui et cette espèce de fidélité qui t'a permis de travailler sur le long terme avec ces maisons-là.
Là, je parle de Jean-Paul Gaultier, mais en même temps, j'étais toujours.
Ouais, ouais, bien sûr, c'est pour ça que je reviens. Ouais.
En fait, avec Givenchy, j'ai pas tant enchaîné les campagnes parce que plus tard, j'ai aussi compris que dans les campagnes, en fonction des designers, on peut pas tout le temps prendre les mêmes personnes. Mmh. Ce que en fait, en termes de création artistique, je trouve complètement normal d'évoluer, de toujours changer. Puis aussi, je suis un garçon, c'est pas pareil que les femmes qui sont des vraies muses. Mais en fait, pendant 5 ans, même un édito à New York, fallait que j'y sois. Donc un édito, c'est pas un truc de fou. Non, il fallait me... le point de vue de Ricardo, c'est quand on a un édito pour Vie ou Numéro ou W Magazine ou quel qu'il soit, que ce soit à Londres, à New York ou en Italie, bah, il y aura Willy.
C'est énorme.
Et j'ai vécu ça pendant 5 ans. Et puis c'était surtout les vêtements Givenchy, les soirées Givenchy, et puis ce truc de... J'ai vraiment... ma vie de avant mes 15 ans où j'étais personne, mais en plus d'être personne, j'étais méprisé. Et mes débuts de 18 ans où je recevais beaucoup d'amour, quoi. Pour, comme récompense pour finalement devenir, enfin, être qui j'étais, quoi.
Mais en plus, là, si on fait un rewind, Ricardo Tisci, à cette époque-là, il est tout en haut de la culture. C'est-à-dire, c'est lui qui fait tous les looks des shows de Kanye, de Watch, de tout. Donc, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de lui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut en termes de culture à cette époque-là.
Ah non, mais c'est incroyable. J'ai rencontré d'ailleurs Kanye grâce à ça. Et puis, de me dire que je rentrais à Paris et qu'à chaque fois que j'avais des soirées où il y avait Kanye, il s'arrêtait pour me dire bonjour où qu'on soit, dans tous les clubs, ou même à New York. Et que Kenny, quand il passait à Madeleine dans son hôtel particulier pour enregistrer, j'y étais. Et qu'il me présente... c'est pas lui qui m'a présenté Travis Scott, mais que je me retrouve du coup à ce que je rencontre Travis Scott plus tard à LA. Et que finalement, c'est Travis qui me dit « Ouais, je viens à Paris, est-ce que t'es chez Kanye ?» Je suis là, je fais « Non, mais vas-y, j'arrive. » Et ça, c'est Givenchy. C'est ouf ce que j'ai vécu grâce à Ricardo.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de starification autour des mannequins hommes. Il y a eu une génération d'avant avec les Werner Schreiner, enfin toute cette époque-là. Mais toi, t'es un des premiers mecs que... Tout le monde reconnaît, déjà parce que tu as un look vraiment très particulier, une gueule particulière, les cheveux longs. Donc ça sort un petit peu du cadre. Et c'est vrai que Givenchy, ça t'a mis worldwide tout de suite, quoi.
Ouais, et c'est vrai que, comme tu dis, c'est... Enfin, apparemment, c'était pas quelque chose de commun de starifier un...
Il y avait des mecs qui bossaient à mort, qui étaient sur des gros projets, tout ça, mais... Les gens les calculaient pas. Toi, t'es un des premiers mecs où on a dit « Ok, c'est Willy », tu vois. On mettait un prénom sur la personne, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me rappelle à l'époque.
Après, j'étais jeune, donc je me rendais pas compte de tout. Moi, je sais que dans mon monde, il se passait ça. Et que je sais ce qui me faisait du bien, c'était d'appeler mes parents. Et de leur dire « Bah, là, je suis là. »
Ouais.
Là, je suis là, là, je fais ça. Et puis d'entendre
la fierté.
Les expressions... De mes parents qui étaient là, oh putain, mais ok, t'es là, ok, nan, des choses comme ça, quoi.
Et toi, tu le vis bien, quoi, tu vis le truc à fond, t'as pas d'inde trop à cette époque-là, tu prends tout ce qu'il y a à prendre et tout ce qui vient, quoi.
Ben, je le vis.
Parce que souvent, là, quand la vie elle s'accélère, t'as des mannequins, enfin, des talents ou des gens, quand la vie s'accélère d'un coup aussi rapidement.
T'as un contre-coup, hein.
Ouais, des fois, on peut avoir le contre-coup.
Alors, déjà, moi, le truc, c'est que je sais pas si c'est grâce à mes parents ou si c'est instinctivement, mais moi, j'ai jamais fait de drogue. Zéro. Et par contre, je me suis tapé des cuites de ouf. Mais c'est vrai que je sais que ça a créé une énorme différence dans toute cette période-là. Où moi, j'étais entouré de jeunes de mon âge, mais qui avaient d'autres intérêts que les miens. Où moi, mon intérêt, c'était de rencontrer des gens, de kiffer. Et pour moi, si j'étais à New York, je me sentais mal de ne pas être à Paris. Si j'étais à LA, je me sentais mal de ne pas être à New York et à Paris. Je voulais être partout et je voulais profiter de tout ce qui m'arrivait. Et du coup, je sais que ça m'a sauvé d'être très ambitieux à ce moment-là. Et de pas... parce que j'avais un passé lourd. Mais j'avais décidé de faire comme si...
L'occulter, quoi.
Ouais, comme si j'avais pas vécu avant. Et de faire abstraction de tout ce qui aurait pu me faire mal au cœur et tout ça. Et plus de focus sur ce qui m'arrivait là. Et d'essayer d'être généreux avec les gens que je rencontrais à ce moment-là. Donc j'ai eu des hauts et des bas. Il s'est bien sûr passé plein de choses qui ont été très durs parce qu'il a fallu que je m'adapte et que je comprenne que c'est comme ça que ça se passe, ou c'est ça qui va arriver à chaque fois que tu vas aller. Oui, voilà. Mais faut dire qu'il y a plein de choses que j'entends les mannequins dire au début de leur carrière qui ne me sont pas arrivées. Parce que mon premier job, c'était Givenchy, quoi.
Ouais, bah ouais.
Et faut être honnête, ça... Bah, tout de suite, je suis arrivé là, quoi. Mmh. Et on traite les gens différemment là-haut, quoi. Ensuite, j'ai rencontré Karl Lagerfeld. Et ça, pour moi, ça a été la rencontre la plus surprenante. Parce que, bien sûr, Ricardo est génial. Bien sûr, Jean-Paul Gaultier, c'est un personnage, c'est une icône. Et puis, il est très doux. Jean-Paul Gaultier, il est là comme on est vous, tous les trois ensemble.
Ouais. Très bienveillant.
Ouais. Mais Karl Lagerfeld, je me rappelle, j'étais à Colette, j'allais toujours à Colette.
Ouais.
Et je faisais des allers-retours chez Colette, mais juste parfois, juste pour...
Pour passer.
Ouais. Genre, j'avais pas besoin de quoi que ce soit, mais juste pour montrer mon outfit. Tu vois, j'allais chez Colette.
Il y a des gens qui sont venus ici qui ont dit la même chose.
Ah ouais,
ouais.
Et donc, j'allais là-bas, je faisais mon parcours, et à un moment, je sors, et je vois Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, qui s'apprêtait à rentrer dans Colette, et moi, je sortais. Et il m'a regardé comme ça, et moi, dans ma tête, je fais, ouais, c'est Karl Lagerfeld, juste trace ta route, mais reste élégant. Et donc, voilà, et puis, je crois que j'appelle quelqu'un, ou alors je dis, ouais, je viens de voir Karl Lagerfeld, qui est incroyable, quoi. Le lendemain, mon agence m'appelle et me dit « Ouais, est-ce que tu pourrais passer chez Karl Lagerfeld ?»
Arrête.
Ouais. Je fais « Ouais ». Et donc, il a sa bibliothèque à Saint-Germain avec son studio et tout. Je fais « Ouais, carrément. » Donc, j'y vais. Et c'était pour des tests photos. Donc, je rencontre Karl Lagerfeld qui me dit « Ouais, je t'ai vu hier. Incroyable. Mais on ne dit pas que tu ressembles à Johnny Depp quand il était jeune et tout. » Je fais « Ouais, ça arrive et tout. » Et il me fait, bon, écoute, on va faire des tests et tout. Et il prend son appareil photo Hasselblad. Vous connaissez la marque Hasselblad ?
Oui, bien sûr.
Il a son équipe et tout. Il se pose, il s'assoit. Et je me mets donc dans son studio. Je fais des photos. Et chaque cliché, sont presque encore aujourd'hui, font encore partie des plus belles photos que j'ai de moi.
Ouf.
Et je les regarde. Et genre, il a dû prendre une dizaine de photos. Et sur le moment même, il me dit « Attends, je vais les imprimer, je reviens. » Je suis là, je fais « Ok, de toute façon, il y avait tout le temps plein de monde. » À côté, il y avait un autre shooting qui se préparait avec des mannequins les plus connus à ce moment-là. Mmh. Donc je suis là, je bouge pas.
Je n'avais rien d'autre à faire aujourd'hui, donc je reste.
Et puis bon, il revient avec 10 imprimés comme ça, de moi. Il les met sur la table et il les signe un par un comme ça.
Oh là
il fait
«
Tiens, ça vaudra de l'or. » Je suis là, je fais
What?
Ok. Je fais ok. Il demande à son assistant, il me les met dans une enveloppe solide et tout. Je fais ouais, bah merci beaucoup et tout. Il fait écoute, Willy, je veux pas te prendre de ton temps. Tu me dis si t'es occupé, mais regarde là, je shoot pour W Magazine. Tiens, d'ailleurs, je te présente un tel. Mm-hmm. Tu veux rester? Je suis là, je fais
Yes, no, maybe.
Ouais. Je fais ouais, non, pas de problème et tout. Il fait mais t'inquiète, ils vont appeler ton agence, ils seront prévenus, mais c'est juste est-ce que t'as le temps? Je fais non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je shoote avec les autres mannequins pour donc W Magazine et c'était très cool. Et du coup, on termine, je sympathise avec tout le monde et tout. Et puis, il est que 16h. Et donc, il dit au revoir et tout. Et il ne reste plus que moi et trois autres mannequins qui arrivent. Je fais Willy, désolé, mais franchement, tu peux me le dire si tu es occupé, si tu dois rentrer, si tu as autre chose à faire. Mais là, je suis en train de shooter la campagne pour. Tu connais cette marque là qu'on vient de prendre chez Chanel, Maison Michel. Je fais ouais.
Non, mais ouais.
Et il fait bah, là, je fais la campagne, on va shooter avec. Regarde comme elle est belle, regarde, elle est géniale, elle et tout. Et ouais, je l'imagine. Et il commence à m'exprimer, à m'expliquer
vision.
Ouais, sa vision du shooting.
C'est ouf.
Je fais ouais, bah moi j'aime beaucoup. Ouais, non, mais ouais, ça a l'air cool et tout. Il fait, tu vas voir, on va mettre des trucs de un peu Miami et tout. Alors t'es d'accord? Et puis t'inquiète pas, tu seras payé. Ce sera réglé avec ton agence et tout. Je fais ouais, bien sûr. Le jour même, j'ai fait des essais, j'ai fait W Magazine, j'ai fait une campagne pour pour Maison Michel juste en un jour avec Karl Lagerfeld. Et ses journées, c'est ça. C'était ça. Mmh. C'est-à-dire que tous les jours, il était full time, toute la journée. Et donc, je rentre chez moi, je raconte tout à mon père. Mon agence qui a essayé de m'appeler toute la journée, je ne répondais pas. Mmh. Le lendemain, enfin, je réponds à mon agence qui c'était Liana. Elle me fait, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, je fais, écoute, je ne sais pas. Et une semaine plus tard, je partais dans le sud de la France pour shooter la campagne Fendi par Karl Lagerfeld. Plus un court-métrage qu'il a réalisé aussi en même temps que la campagne. Nice. C'était fou. Et donc, on était dans un petit village Chanel, je ne sais plus où c'était. C'était que des maisons qui appartenaient à Chanel. Et donc, on circulait de maison en maison avec des deux roues. Vous savez, les trucs que les...
Comme les golf cartes, là, presque. Ouais.
Mais tout en Chanel. Les roues, évidemment, les poignets, c'était le cuir Chanel, tout et tout. Et donc, je fais ce shooting. Le shooting se termine au bout de 3 jours. Et donc, moi, tout le monde prépare sa valise pour rentrer le jour même. Et Karl Lagerfeld qui me dit, est-ce que tu penses que tu pourrais rester un jour de plus? Là, je shoot la campagne Rolls-Royce. Et franchement, il y a que... Je pense qu'il n'y a que toi qui pourrais le faire. Toi, ouais. Je fais, mais j'ai pas le permis. Il fait, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. ok, et donc, du coup, je reste.
Et c'est vraiment lui à chaque fois qui s'adresse à toi directement.
Directement. Et donc, le lendemain matin, je me lève, 8h. Je sors de la villa dans laquelle j'étais avec tous les autres mannequins, mais là, j'étais seul. Mm. Et il y a 7 Rolls-Royce devant la villa.
Damn.
Et en fait, je suis là, je fais, ok. Et il y a déjà les lumières, les trucs, tout le monde qui est presque en train de se préparer. Je sors, on me maquille, mais à peine, et c'est « bah vas-y, monte ». Et il arrive avec son Hasselblad, une photo par-ci, une photo par-là, mais ça a pris 45 minutes. Et, c'était fini. merci et tout. Et la campagne Rolls-Royce, elle est restée pendant, je crois, 3-4 ans, où quand t'achetais une Rolls-Royce, c'était une Rolls-Royce particulière, t'avais le bouquin Karl Lagerfeld, seulement pour les acheteurs de Rolls-Royce, et toute la campagne, c'était ce bouquin-là. Donc, quand t'as acheté une Rolls-Royce, il y avait moi.
C'est ouf.
Et c'était incroyable. Et donc, moi, encore très jeune et encore avec des problèmes d'éducation sur certaines choses, je m'apprête à partir de cette villa Chanel et je vois un parapluie Chanel, je vois des trucs, toutes ces choses accessibles, et je les mets dans mon sac. Et je me dis ouais, mais c'est pas du vol, c'est rien, c'est juste il pleut à Paris. Il pleuvait pas du tout. Je fais bon, allez, je retire tout, je prends juste le parapluie, parce que le parapluie il était très, je sais même pas pourquoi. Et donc je prends mes affaires, il y a le parapluie qui dépasse comme ça, et je croise Karl Lagerfeld et tout, et il me regarde, parce qu'on a fait un déjeuner ensemble, sachant que Karl Lagerfeld il mange toujours seul. Et on termine le déjeuner, et je m'apprête à dire au revoir à tout le monde et tout. Et Karl Lagerfeld, il vient et fait tu sais, le parapluie, tu peux le prendre. J'étais là. Ok. Et en fait, il a tout capté. Il avait totalement compris que j'étais en train de voler le parapluie. Mm. Et il a essayé de me déculpabiliser totalement.
C'est ouf.
Et il m'a dit juste prends-le. Tu vois ? Et voilà, je suis rentré comme ça. Et finalement, après, j'ai fait que de bosser avec Karl Lagerfeld sur d'autres trucs. Et ensuite, ça s'est calmé avec Givenchy. Et ensuite, c'était beaucoup Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld. Et ensuite, plein d'autres, en fait.
Waouh!
Ce rythme-là, il dure combien de temps, à peu près?
Donc là, j'ai 19, 20. Ensuite, à 20 ans, je me rappelle, j'avais fait les derniers shows de Galliano, qui m'avait vachement marqué aussi. Parce que je fais son tout dernier show, que j'ai trouvé incroyable en expérience. Et dans la même foulée, il s'est passé ce qui s'est passé avec Galliano. Donc ça m'avait marqué. 20 ans. Et ensuite, c'est à partir de là où les choses s'espacent plus, et puis je prends plus de contrôle sur ma vie. Et là, j'habite mi-New York, mi-LA.
Ok.
Et, Et c'est là que on me propose, ou c'est là que je fais un tri sur tout ce qu'on me propose. Et que je commence à me dire, bon...
Tu commences à comprendre le management, ouais. quoi.
Et puis surtout, je n'étais pas du tout entouré. Hein. Aujourd'hui, je pense que je le suis. Je suis encore très... je pourrais être mieux entouré encore aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais que moi et mon apprentissage et mon point de vue. Heureusement, j'ai vécu dans un milieu artistique, donc j'ai toujours eu un regard esthétique sur tout. Mais c'est là que je me dis, ok, ça, non, je ne peux plus le faire. Ça, non, je ne vais pas le faire. Et puis, en fait, j'ai plus envie qu'on me voit partout. Parce que sinon...
Ouais, tu cultives la rareté.
Bah ouais, sinon, demain, je ne suis plus là et c'est fini, quoi. Donc, je refuse plein de choses. Et là, je commence à avoir des conflits avec mon entourage, mes parents, parce que...
Ils comprennent pas, ouais.
Ouais, je refuse des vraies sommes. Des sommes qui peuvent changer beaucoup de choses. Mm. Et à côté de ça, je fais aussi des choses gratuitement.
Bien sûr.
Mais... qui avait beaucoup valeur. Plus de valeur que qu'un billet, je vous le dis, hein, des fois de 30 000 balles à l'époque, à 20 ans.
Ah, c'est énorme.
Où je suis là, je fais non, je peux pas faire ça. Et ma mère qui me dit, mais attends, t'es parti, t'as payé ton billet pour aller à Londres, tu vas à Londres, tu fais un shooting, tu rentres, et je dormais toujours au même endroit, et t'as pas été payé. Et, mais par contre, t'as refusé tant. Et c'était dur.
C'est difficile de comprendre ça.
C'est super dur. Et surtout que pour en arriver là, il faut avoir la foi. À ce moment-là, j'avais envie de croire
à l'avenir.
Ouais, à l'avenir. Mm. Parce que sinon, on me proposait tous les 6 mois de faire une télé-réalité aussi.
Ah oui, bah c'était la grosse période de la télé-réalité.
Et donc,
hein.
Tous les 6 mois, j'insultais en fait les gens qui m'appelaient. Pas parce que je le prenais déjà très mal, mais en plus, on me proposait des sommes de ouf. Et j'avais l'impression que dire non une fois, ça suffisait. Et on m'appelait tous les 6 mois. Et pour moi, je savais très bien que si je faisais ça, et j'ai aucun souci avec les gens qui font de la télé-réalité. Et j'ai certains amis qui en vivent très bien. Mm. Mais à ce moment-là, je savais très bien que. Si je mettais un petit doigt dedans,
ah, c'est fini.
C'était fini, totalement. Mm. Donc je me disais, mais qui veut me détruire comme ça pour m'appeler tous les 6 mois?
Qui les envoie?
Et donc je commençais à être très sélectif, et puis là je rencontre Johan Lemoine, qui me propose justement de jouer dans son clip, gratuitement. Et j'ai tout de suite dit oui. Et pour moi...
C'est dans son premier album, c'est le clip de son premier album. Ouais,
exactement, c'est son premier clip.
Et donc moi, la claque à tout le monde.
Et à ce moment-là, j'ai encore une fois des conflits autour de moi pour un tel projet, une telle production, un tel truc, et tu ne demandes pas un euro. Et moi, en fait, je voulais juste faire des choses qui
te plaisent,
mais pas seulement ça, des choses qui avaient un impact, des choses qui, parce que je sentais que c'était la crème de la crème, et que c'était
les bons projets,
et puis même moi, puisque en fait mon père était peintre et écrivain, ma mère danseuse, et pour moi c'était des places qui étaient déjà prises, et je cherchais encore ma place, et je me disais, bah avant de trouver ma place, bah au moins mon corps, ce que je fais, j'ai envie que ça touche des choses où on va tous être fiers, quoi. Donc je fais Iron et j'attends 3-4 mois avant que ça sorte, et quand ça sort, pareil, ça a eu un impact où là c'est pas l'international, mais carrément c'est dans le métro, c'est des passionnés, c'est des vrais musiciens, c'est des vrais gens de la post-production que je croisais dans le RER, qui me disaient, mais putain, mais c'est toi dans le clip?
Ouais. Ce clip, il est fou.
J'étais en bomburst dans le RER.
Ouais, parce qu'on se rend pas bien compte, je pense qu'on a l'impression que quand tu fais une grosse campagne mode, tu touches tout bien le monde. Sûr. Alors qu'en fait, c'est vraiment quand tu commences à mettre un pied dans la pop culture et la culture que vraiment tu touches les masses, en fait. Et c'est là que ta vie.
T'as totalement raison.
Prend un tournant différent, quoi.
Et ça m'a choqué de me dire. Mais pourtant.
T'as l'impression que t'es Benetton, t'es affiché partout, du coup on te reconnaît.
Alors que Benetton, tu survoles finalement.
Ouais, exactement.
Et puis aussi, quand tu vois des affiches comme ça, tu te rends pas. Presque tu te dis, mais c'est pas des vrais humains. Mmh. Ils existent pas vraiment. Mmh. Et moi, c'est ce que je pensais quand je voyais des magazines avant de toucher à la mode. Je me disais, mais je prenais pas conscience que c'était des gens qui existaient vraiment. Mmh. Mais voilà, et donc j'ai fait ce clip, et puis après. Qu'est-ce que je peux dire? Je fais ce clip, je suis très content. Là, j'ai 20 ans, je commence à avoir des copines, je commence à voyager plus, je commence à me manager moi-même. Mm-hmm. Et voilà, ça se passe bien, j'enchaîne les shootings. Ouais.
Moi, j'ai deux souvenirs de toi en vidéo.
D'accord.
Je crois que c'est un des parfums Diesel où tu cours et.
Ça, c'est bien plus tard, ouais.
Ouais, ça, c'est.
Alors, ok, je bah...
Et Chalimar, j'aimerais bien qu'on voit un peu Chalimar parce que ça, c'est.
Donc, exact. Donc là, je suis à New York. Il se passe plein de choses. J'ai des meilleurs amis pour la première fois de ma vie. Mm-hmm. J'ai beaucoup de gens autour de moi, donc c'est dur à gérer. J'essaie de comprendre parce que, en plus, depuis mes 18, 17 ans à 20 ans, 21 presque, en vrai, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. C'est-à-dire qu'après une campagne, parfois, il y a eu pu avoir 4 mois. Mmh. Et en fait, de voir que la campagne sort et pendant un mois, je suis idolâtré, mais au bout de 2 mois, 3 mois, quand il n'y a plus rien, il y a toute une partie de personnes qui sont presque plus satisfaites de voir qu'il n'y a rien qui s'est passé après. Mmh. Et qui ressurgissent. Et presque, ils se sentent bien de voir que je ne travaille plus. Et ils sont là et quand il y a un dîner en groupe ou un événement, c'est les premiers à dire « Et du coup, tu fais quoi ?»
Bien sûr.
Et je suis là. En plus, moi, j'ai jamais ressenti le besoin de m'avancer, de dire « Ah bah, je suis sur ça, je suis sur ci. » Donc généralement, je faisais « Bah là, pour l'instant, rien. Mm. » Et en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était utilisé contre moi. Et il y a plein de gens qui se faisaient un malin plaisir à ressortir et à essayer de me faire me sentir mal dans toutes ces périodes où il se passait plein de choses mais c'est rien qui sortait encore quoi. Mm-hmm. Et je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer mais
genre Willy il est mort quoi tous les deux mois c'est
tous
Willy,
les deux mois
c'est
j'étais
Willy
mort
fini. Ouais.
Mais c'est à vivre je trouve ça m'a j'ai appris ça cette expérience d'avoir ça avant 20 ans alors que j'ai même pas 20 ans. Et tous les deux mois, je mourais, exactement.
Mmh. C'est ouf.
Et je suis là, je fais...
Et encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Ouais. Et je suis là, je fais, mais les gens, ils sont... Je ne me rendais pas compte à quel point il y avait des gens mal intentionnés. Mmh. Parce qu'en fait, le fait de mourir, eux, ils vivaient plus.
Bien sûr.
Et donc, à 21 ans, j'ai enfin mes meilleurs amis, mais en même temps, je commence à voir comment gérer ce genre de groupe de personnes. Et aussi à pas tomber dans le truc de vouloir exister tout le temps. Donc voilà, je suis à New York et je reste trop à New York. Je crois que j'étais parti 3 mois et je suis là depuis 6 mois et je suis fatigué. J'avoue, j'ai envie de rentrer à Paris parce que c'est épuisant. Et là, j'ai une fille qui m'appelle. Elle me dit « Oh, j'ai un casting pour toi. C'est un gros projet. On a trouvé le mec, mais je sais pas pourquoi. Je pense que tu devrais quand même passer le casting. » Et je suis désolé, je suis à New York. Elle fait « Merde, putain, non, et tout. » Et je lui dis, j'avais un peu d'argent, je fais « Écoute, si vraiment tu penses que ça vaut le coup, il faut que je rentre à Paris. Si je peux rentrer dans une semaine, mais je peux aussi rentrer demain. Mm-hmm. » Elle fait « Rentre demain. » Je fais « Bon, okay. » Et ça m'a arrangé parce que j'en pouvais plus. New York, j'adore, mais c'est très intense. Et j'avais 20 ans et il se passait trop de choses. Donc je rentre. C'est rapide et j'arrive première heure le jour où je suis là et je la rejoins. Il fallait que je mette des lentilles vertes, mais impossible de me mettre des lentilles, moi c'est pas possible. Donc on laisse tomber et elle me fait bon, tu sais quoi, on va faire la vidéo comme ça, essaye d'être le plus élégant possible. Et...
Qui fait le casting, Jules ?
Je me souviens plus. Je me souviens plus. À l'époque, franchement, j'ai rencontré tellement de gens que j'avoue, et ça c'est quelque chose que je regrette, c'est de pas avoir m'être préoccupé plus des noms des gens. Mais bon, je fais le casting, ça se passe super bien, ultra bienveillant. Elle me dit merci et je lui dis au revoir. Mais dans la même journée, genre c'était le matin, elle me rappelle à 16h, elle me fait écoute, ils ont débooké le mec et c'est toi qui vole.
Donc ça c'est pour Chalimar du coup ?
C'est pour Chalimar. Sauf que je savais pas pourquoi c'était, elle pouvait pas me le dire avant.
Ah ok.
Et donc le soir, elle me dit donc le projet, c'est on part dans une semaine... Dans 10 jours en Inde, et c'est pour donc Guerlain. Et ils ont un parfum qui s'appelle Shalimar. Et je suis là, je fais OK, mais du coup, c'est quoi comment ça se passe? Et elle me dit, bon, elle me parle du réalisateur. Elle me dit, check et rappelle-moi. Et donc, je check et je vois le réalisateur Bruno Aveillant, qui a fait les plus grosses campagnes quartier et les plus belles, ouais, avec le léopard et tout ça.
Ouais.
Et je suis là, je fais, ouais, attends. C'est ça que je vais faire en Inde. Et donc, je la rappelle, elle me fait littéralement, c'est ça, mais c'est pour l'instant. Elle me dit, je te cache pas qu'à la base ton rôle n'était pas prévu dans le projet, donc le budget est pas énorme, mais le budget du film, c'est le plus gros budget de la pub du monde entier.
Ouais.
Je fais OK, et du coup, c'est quoi mon budget?
C'est la première fois que tu fais du parfum?
Toute première fois. Ouais. J'avais fait une figuration dans un parfum, dans un truc, une plaque en or là. Plus que ça.
Ah, 1 million.
1 million, ouais. J'avais fait une figure où je faisais un DJ à l'époque et tout. Et donc, elle me parle de mon budget. Et là, la première grosse bataille entre moi, mon agence, et parce qu'il y avait une autre agence, la directrice de casting, elle travaillait avec une agence de pub dans laquelle je m'étais inscrit quand j'étais ado.
Ah oui, donc, mais c'est est-ce que t'es acteur ou est-ce que t'es mannequin là, du coup?
Exactement.
C'est ça la question.
Et là, tout à coup, c'était le plus gros cachet que j'avais eu jusque-là, bien que j'avais eu des cachets avant, mais là c'était...
Non, mais c'est pour ça que je te demande, c'est le premier parfum, parce que c'est des sphères différentes.
Et là, mes agents de mon agence de mannequin, les agents de l'agence de pub m'appellent, tout le monde m'appelle en me disant, attends, là Willy, sachant que le projet venait de moi. Et ça devient un cauchemar pendant 4 jours. Où à un moment je me suis dit bon bah je vais juste être fidèle, je suis chez Success depuis tant de temps, tout se passe très bien.
Bien sûr.
Et alors que l'agence de pub me prenait 20%, l'agence de mannequin me prend 70%. Donc j'ai accepté qu'on me prenne 70% par fidélité et parce que aussi j'avais pas envie de vivre des... parce que je savais que ça allait pas être que ça, que j'allais faire plein d'autres choses avant et je voulais continuer à avoir des bons rapports avec mes agents. Donc je l'ai fait avec eux. Et donc, je dis à mes parents, je vais aller en Inde et je vais faire ça, ça et ça. Mais à première vue, c'est pas non plus très impressionnant comme projet visuellement. Et voilà, je vais en Inde. Et franchement, comme expérience de voir Bruno Aveillant travailler.
C'est une prod digne d'un film.
Alors, quand même. Déjà, y a le projet, je crois qu'il a coûté 9 millions.
C'est le budget d'un film.
Il y a des films qu'on regarde aujourd'hui avec des effets spéciaux et des films superbes qui coûtent 6 millions. La pub a fait 5 minutes. Donc j'arrive là-bas et en fait de voir Bruno Aveillant travailler, j'ai encore alors que on aurait pu croire ou dire que j'avais déjà presque tout fait.
Alors, non, c'est un autre niveau.
C'est un autre game. On se retrouve en haut d'une dune, mais au fin fond de l'Inde, mais genre au-dessus même de la brume. On se retrouve en haut d'une dune à 8h du matin. Bruno Aveillant qui marche. Et je crois que c'est moi qui en rentrant à Paris, qui ai raconté cette histoire à tout le monde. Et c'est devenu une des légendes de Bruno Aveillant. Bruno qui marche comme ça, en haut de la dune. 80 personnes qui le suivent derrière. Une équipe de 80 personnes. Et moi qui suis juste derrière Bruno. Et je suis là, je fais, mais qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, on sait pas. On suit Bruno. Et je suis là, je fais, OK. Et donc, on suit tous Bruno à la queue leu-leu comme ça, mais un groupe énorme. Et à un moment, il fait, stop. Il y avait une petite fleur autour d'un buisson d'herbe comme ça, où tu pouvais voir toute la vallée de l'Inde derrière. Et il fait, c'est ça le prochain plan. Et là, tout le monde, installation, truc, nan. C'est juste, je me dis, mais... OK, punaise. C'est incroyable.
Tu me donnes envie de revoir la pub, du coup.
Ouais, il faut. Et donc, on commence, et le soir même, on se retrouve à l'hôtel, et Bruno qui m'envoie un texto et qui me dit, on peut boire une bière en bas? Je fais, ouais, carrément. Je fais, écoute, Willy, j'ai changé tout le scénario de la pub, parce qu'en fait, j'avais que 2 jours de tournage. Il me fait, franchement, moi, je pense que on devrait te voir du début à la fin. Donc, en termes de cachet, ça va rien changer. On peut rien changer. Je peux rien pas me permettre. Mais j'ai imposé ça avec la boîte de prod et tout. Est-ce que tu peux rester pendant les 7 jours. Et on va te faire tourner tous les jours. J'étais là, ouais, ok, pas de souci. Et on termine la bière, il me fait une tape sur l'épaule, il fait merci beaucoup, Willy, vraiment. Ça me fait plaisir et tout, et vraiment, j'oublierai pas. Moi, dans ma tête, je suis là, mais... Ok, enfin, c'est moi qui suis plus reconnaissant que tout, tu vois. Et donc, la pub, en fait, on devait me voir vraiment au début comme figure, un peu comme un indien, un chaman. Et c'est comme ça que ça commence. Mais en fait, on me voit jusqu'à la fin.
Ah bah oui.
Et voilà, et donc on a tourné le truc avec, bien sûr, Natalia Vodianova, que j'ai rencontrée, qui était ultra charmante, très gentille, attentionnée. Et moi qui, en plus, fais de la danse classique, sur le tournage, je commençais à être un peu complexé, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements et de trucs à faire, mais en fait, elle était tellement intense à regarder et à interagir avec. Ses enfants étaient là, et en fait, je savais pas, mais la personne qui était avec ses enfants, c'était son mari. Et en fait, ça m'a complètement déstabilisé parce que on devait s'embrasser, s'enlacer et tout ça. Et j'ai complètement flippé de me dire, mais attends, ton mari, il nous regarde en train de faire ça devant la caméra. Et puis j'étais jeune en plus. Et en fait, elle m'a détendu. Elle m'a dit, regarde, quand tu vas être là-bas et que tu vas regarder vers moi, tourne d'abord tes épaules et ensuite ta tête. Tu vas voir, ça va t'aider. Ça va te donner une élégance. Et je suis là, je fais... Ok, et je suis comme ça. Et ah non, elle m'avait dit la tête et ensuite les épaules ou un truc. Et en gros, je suis là, je fais comme ça. Et en fait, c'est des choses, des... Ah oui, pardon, c'est on va pas. En fait, c'est des détails qu'on apprend en danse. C'est des basiques de mouvement, ouais. D'élégance.
Quand tu fais des tours.
Mais parfois, dans des moments comme ça,
ouais, t'oublies.
Mais tu perds tout.
Bien sûr.
Et donc voilà, Natalia aussi, génial. Et voilà, je rentre à Paris 7 jours plus tard plutôt que 2. Et pareil, Willy est mort. Willy est mort et puis je vois dans mon quotidien des choses que je vis mal parce qu'il y en a qui se font un malin plaisir à faire croire qu'il n'y a plus rien ou à toujours... Et puis moi, j'ai toujours été très secret, donc il ne faut pas trop me demander parce que je ne dirais pas. Mmh. Je ne vais pas te dire, j'ai tourné ça... J'ai dit à personne d'autre que mes parents que j'avais tourné Chalimar, par exemple, pendant 6 mois. Mm. Et finalement, au bout de 6 mois, comme on voit les affiches de films partout, là, ils avaient fait des affiches de films pour Chalimar. Mm. Donc dans toute l'Europe, moi Paris, mais c'était partout à Londres, partout dans l'Europe, en Espagne, partout, les affiches de films Chalimar, comme si c'était un film qui allait sortir. Je fais, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ouais. C'est
je crois même qu'il y avait la date.
Ouais, bien sûr.
Ouais, c'est la ça, date. Il y avait la date. Hein.
Ouais, ils l'ont traité comme un
film. Et donc, moi, je fais bon.
Je crois que c'était aux 20h de TF1, ou genre le dimanche soir avant le film, c'est entre le JT de 20h et le avant le dimanche, c'était le film du dimanche soir de TF1. Et genre, c'était passé là, ou avant le 20h dimanche soir, genre le
en plus prime gros
créneau de la semaine.
Mais c'est fou parce que t'as une mémoire de ouf aussi.
Ouais,
enfin, toi aussi, c'est parce que même moi, en fait, j'y pense plus jamais. Mais c'est vrai que c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
C'était la première fois, c'était tellement c'était fou que.
Et donc moi, je me dis, je vais le voir au cinéma. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Et je sais pas, c'était un film un peu un film français. Donc je fais on va acheter un billet et on va voir le film quoi. Et déjà, je vais acheter des pop-corn. La meuf des popcorn qui me regarde, qui fait.
Elle a du slick et fier.
Mais c'est toi.
Et je suis là, je fais j'ai pas vu, je vais le voir là. Et donc je regarde, je découvre Chalimar pour la première fois au cinéma.
Avec le public, t'as pas
avec
vu
le...
de.
Non,
t'as pas
non,
vu d'avant.
Non. Et ensuite, déjà, j'étais choqué. Et ensuite, je vois le film après. Et après, je me dis, mais ils vont passer ce film avant chaque film. Cette
bande-annonce. Hein.
Et. Tu regardes ça, après tu regardes ton film, tu te dis parce que c'est tellement puissant, tu vois. Et voilà, et puis c'était génial, j'ai eu des retours incroyables, et puis Willy est de nouveau là.
Ah là, il est bien ressuscité, c'est clair.
Mais et ensuite, il y a une tournante, un truc qui s'est passé que j'avais jamais vécu avant. C'est j'adore ta pub, mais franchement, j'en peux plus la voir. Les gars, je comprends qu'on la voit partout, mais c'est. Et puis en fait, je m'en suis pris plein la gueule parce qu'on me voyait trop.
Ouais, mais c'est pas toi qui fais le plan média. Hein.
Ouais, mais c'est vrai que c'était dur parce que c'est tellement un accomplissement et quelque chose de génial pour moi ouais. de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à trouver une faille dans le Willy existe mmh. et qui sont dit.
Après, quand tu t'exposes, et toi, comme on disait, t'as été tellement exposé et t'es la star des mecs français, enfin, et en général de ta génération, que c'est sûr que les gens ils vont essayer, ils vont ouais, jeter bien sûr, des bien pierres, sûr. C'est bien sûr et certain.
Et ensuite, il y a eu, Libé qui a sorti un article sur moi, mais ça c'était après, bien après, mais où mon père, je lis Libé tous les jours. Mmh. Et il y a eu un article sur voilà la nouvelle la pub donc de Chalimar qui a fait tant de chiffres, qui a coûté tant, qui a nan. Il parle du fait que Natalia, pour eux, c'est pas normal qu'elle joue dans un film en Inde parce que elle jouait une princesse indienne, mais c'est vrai qu'elle est toute blanche. Mmh. Donc je peux complètement comprendre le point de vue. Et tout à coup ils disent et Willy Cartier qui joue le prince indien alors que c'est une folle. Ou un truc comme ça.
Ah ouais. Ouais.
Et je suis là, je lis ça et je me dis, attends, mais moi, je suis l'après-midi, mon père, il le lit tous les matins.
Ah ouais, c'est dur.
Je fais, mais surtout que c'est encore si j'avais été d'une certaine manière pendant toute ma carrière ou quoi. Mais c'est basé que sur des. C'était basé que sur des rumeurs, comme on adore dire un tel est gay, un tel. Alors, parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais de là à ce que le Libé...
Un journaliste, en plus.
Ouais, c'est ça.
Sans être sérieux, Libé, c'est sans être sérieux, en plus.
Et Libé disent ça sur moi, sur un tel sujet. Et en plus, moi, j'en étais tellement fier. Et de savoir que mon père ait pu lire ça, tu vois, le matin. C'est vrai que ça m'avait fait un choc. Et voilà. Donc ça.
Et... Ouais, toujours quand même des trucs down qui contrebalancent les
très
hauts.
Toujours. Mais...
C'est la vie, mais bon.
Ouais, c'est la vie. Donc voilà, il y a eu Guerlain, et puis en vrai c'était génial, et puis je suis fier. Ensuite, là j'ai 23 ans, j'ai 22 ans. À 23 ans, j'ai ma belle-mère qui décède.
Oh,
de ce petit appart rue d'Anguin dans le 10e où je vivais donc avec mon père, ma belle-mère et mes deux demi-sœurs, on se retrouve complètement à 23 ans, tous séparés. Et à ce moment-là, on m'appelle pour faire des ailes. Au moment où je vis le décès de ma belle-mère, quoi. Donc c'était très chelou. Et donc, je suis obligé d'accepter. De toute manière, on avait fait toutes les... Donc, c'était déjà fait. Et donc, je pars à Miami... la pub Diesel qui était aussi pareil à chaque fois des expériences complètement différentes. Je suis à Miami, j'étais jamais arrivé à aller à Miami, je me retrouve sur des décors. À ce moment là j'habitais à Londres, donc j'habitais à Londres. On m'avait envoyé une meuf qui fait des prothèses pour cinéma pour me faire les prothèses de mes pieds pour que je puisse courir à Miami dans la forêt. Sauf que ça n'avait pas fonctionné parce que je transpirais des pieds. Et du coup, les prothèses glissaient. Donc, je me suis retrouvé à courir pieds nus dans la forêt. Puis, c'était tout aussi bien. Et donc, j'ai fait ça et je suis vite rentré. Et voilà, ça a été une période compliquée pour tout le monde, pour mon père. Parce que mon père, il venait de perdre la femme de sa vie. Et moi, ma belle-mère. Et en fait, cette pub est sortie comme ça, quoi. Alors que moi, j'avais l'habitude, quand je fais un truc, ça prend 6 mois, un an. Et la pub, elle est sortie, mais je crois, dans la foulée, en moins d'un mois et demi. Et tout à coup, je me retrouve dans une euphorie de nouveau, où ça passe à la télé, mais pour le coup, beaucoup à la télé, moins, pas du tout au cinéma. Mais là, c'est un tout nouveau public encore. Parce que pour le coup, Chalimar, on me reconnaissait pas trop. Parce que je crois que c'était trop grand pour croire que encore ces personnages sont réels, tandis que Diesel.
Et puis là, on ne voit que toi, quoi. C'est toi qui cours.
Effectivement. Vraiment... Et là, Diesel, j'habitais 6 mois à Londres, et là, je suis retourné à Paris. Et Diesel, pour le coup, je sais que c'était une période qui était très dure pour moi, où j'étais je me posais plein de questions, en fait. Et je me faisais littéralement sauter dessus dans la rue par les gens en me disant « Putain, mais ta vie, elle est extraordinaire, mais géniale, mais bravo, putain, Diesel, c'est charmé. Mmh. » Et à chaque fois, oh, « Génial et tout. » Et moi, je venais, il y a un mois, littéralement, de perdre ma belle-mère, quoi. Mmh. Et je marchais dans la rue, parfois, je savais pas où j'allais, quoi. Parce que je me retrouvais avec mon père qui avait des mauvaises tendances, parce qu'il avait vécu la pire perte de sa vie. Mmh. Et du coup, j'étais incertain pour la survie de mon père aussi.
Ouais.
Et donc, j'étais constamment en train de m'assurer que mon père se porte bien. Et donc, les seuls moments de répit, c'était pour moi de me balader parfois. Et voilà. Et du coup, je pense pas que Diesel, j'ai pu vraiment
apprécier.
Et voilà. Et ensuite, j'ai dû faire... Franchement, je crois qu'à partir de là, j'ai fait une pause. Une pause énorme de 2 ans et demi, je crois. Et à partir de 2 ans et demi, je me suis dit, bon... Ça y est, je deviens grand. Je deviens grand. Et puis aussi, j'ai eu plein d'histoires personnelles dans ma vie, quoi.
Mmh.
Et je vais essayer de revenir, mais plus avec plus de maturité.
Mmh.
Et aussi parce que, pour être franc, ça pouvait pas durer toute une vie comme ça non plus, quoi.
Mmh. Tu commences à penser à l'après, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais maintenant?
Bah, surtout, je me dis, moi, à la base, je voulais être comédien.
Ouais.
Donc, j'ai toujours mon agence de comédiens, ils m'envoient toujours des projets intéressants. Et pour le coup, parce que là, on parle de la mode, mais entre-temps, j'ai fait plusieurs choses en tant que comédien. Et je me dis, bah, maintenant que la mode, ça se calme, je vais aussi me concentrer sur mon métier d'acting.
Mmh.
Et voilà, et à 25 ans, je fais un film qui s'appelle Soren, que j'ai tourné en rôle principal. C'est un film américain et Amérique du Sud,
okay.
Que j'ai tourné en Bolivie pendant 2 mois et demi, où c'est l'histoire d'un couple qui vient de se marier et qui va faire son voyage de noces en Bolivie. Et pendant leur voyage de noces, ils rencontrent un voyageur qui est moi. Et en fait, secrètement, ils tombent tous les deux amoureux de lui. Donc c'est une histoire très très belle, mais en même temps ultra destructrice pour le couple, quoi.
Mm.
qui se le dit pas. Et puis moi, au bout d'un moment, je suis un voyageur, bah je passe un bon moment avec eux et puis à un moment je m'en vais, quoi.
Mm.
Et au moment où je m'en vais, leur couple se désintègre complètement, comme si j'étais
le lion.
Ouais, voilà. Et donc ils essayent tous les deux de me retrouver. Et en essayant de me retrouver, ils se retrouvent.
Oh, c'est beau.
Donc, ouais, ouais. Donc j'ai fait ça, et puis après, je retourne à Paris. C'était un choc, parce que, bon, l'Amérique du Sud, la Bolivie, ils sont quand même 50, 60 ans en arrière sur plein de points, quoi.
Mmh.
Donc je retourne à Paris, je revois les choses encore plus différemment qu'avant cette expérience incroyable. Et donc, je continue à essayer de faire des choses tranquillement. Et voilà. Et puis, je continue ma carrière d'acting. Et puis, depuis, bah, j'ai ouvert ma boîte de prod.
Ouais. Alors, parle-nous de ça.
D'où
ça vient déjà, tu sais, cette idée d'avoir une boîte de prod?
Bah, en fait, c'est qu'au final, les choses se sont calmées, les choses se sont améliorées. Et puis, finalement, je vois que c'est pas anodin ce que j'ai vécu.
Mmh.
Mais ce qui est encore moins anodin, c'est à quel point j'ai des amis du monde entier. Et à quel point tout mon entourage sont des artistes extraordinaires. Et je me dis, mais et puis aussi mon expérience personnelle, où je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point c'est parfois gratifiant, mais parfois on met énormément d'efforts dans plein de choses et il se passe très peu de choses. Et donc j'ai une relation incroyable avec tous mes amis, avec tout mon entourage. Et puis on a toujours eu ce rêve d'acheter un immeuble entier à Londres ou à Paris et d'avoir des étages, un étage studio, un étage,
ouais.
Un étage production, un étage nanin, un rooftop où on fait la fête, pourquoi pas un restaurant en bas. Puis c'est le grand rêve, quoi. Mais du coup je me dis, mais c'est vrai que moi depuis que je suis petit, mon rêve c'est d'avoir un lieu où tous mes amis se rejoignent et créent ensemble et survivent ensemble et font des choses aussi qui sont différentes et dont on est tous fiers. Et bon, c'est un gros rêve. Mais donc, je me dis, mais pourquoi je ne créerais pas justement une boîte de production où sur les projets, je propose justement à tous mes amis de participer en fonction du projet et donc de faire des choses dont on est fier, quoi. Et voilà d'où sort la boîte de production.
Ok, tu kiffes du coup? Ouais. Tu t'as lancé ça il y a combien de temps?
Ça fait 2 ans, c'était pendant Covid. Donc au début en même temps c'est pas plus mal parce que ça nous a donné du temps de
structurer, de réfléchir.
Ouais, la structure elle est géniale, elle est même parfaite, donc là-dessus il n'y a plus de problème. Et puis maintenant c'est aussi par exemple le networking. Moi je suis pas très bon dans le networking.
Ah ouais?
Non, parce que je
t'aimes les trucs organiques, les trucs.
Exactement.
Qui viennent à toi,
c'est ouais. Facile quand c'est plus facile quand il y a pas un projet derrière.
Il n'y a pas d'enjeu, ouais.
Où en fait on peut juste apprécier qui on est tel qu'on est sur le moment, mmh. Et puis kiffer et tu me parles de ta vie, je te parle de la mienne et puis basta. Mais là c'est plus j'ai une boîte de prod, qu'est-ce que toi tu fais? Ah ok, intéressant.
Ouais, c'est beaucoup plus intéressé.
Et du coup c'est vrai que pour moi c'est troublant. Non, c'est, et j'y connais, et pour moi là-dessus j'ai réalisé ça il y a 1 an et demi, j'avais jamais fait ça de ma vie, et donc je fais des efforts, et en faisant du networking je me dis mais en vrai j'ai quand même une vie à côté, je suis comédien, je suis encore mannequin pour plein de projets, surtout des projets intéressants. Je fais très peu de choses et quand je les fais j'essaie que ce soit cool pour moi.
On a eu la chance de t'avoir sur Casablanca.
C'était carrément. Super cool. C'était très cool, c'était un super ouais. Projet.
On a fait Marie-Claire aussi, premier homme dans Marie-Claire.
Ouais.
Un shoot cool.
C'était génial, à cheval dans Paris. Ouais.
À cheval dans Paris.
Et donc, je me dis, la boîte de prod, j'ai pas envie tout de suite de le mettre sur le dos de ma boîte de prod, que je dois survivre avec ma boîte de prod tout de suite. Et au contraire, je me dis, bon, ok, je dois m'améliorer en tant en faisant du networking. Mais ce que je voudrais, c'est surtout juste trouver des gens, même une ou deux structures avec lesquelles je peux développer et construire quelque chose de sain et avec qui on va bosser tout le temps, quoi. Plutôt que d'essayer d'en parler à tout le monde et de bosser avec un tel, sachant que aujourd'hui c'est une petite boîte, je pourrais pas bosser avec tout le monde d'un coup, tu vois. Ce qui est normal. Donc voilà, je veux juste que ça évolue tranquillement mais bien, quoi.
Trop cool.
Ouais.
C'est peut-être un peu perso, mais tu me dis si tu veux répondre ou pas. On s'est parlé tout à l'heure de ton ascension, tu vois, t'as commencé par des trucs très hauts, t'as très vite pris des gros jobs et du coup probablement eu des gros cachets. Comment est-ce que t'as géré ça, cette création de patrimoine? Parce que tu vois, tu me dis, j'ai pas envie de me mettre tout de suite la pression de vouloir survivre avec ma nouvelle structure, mais est-ce que t'as mis des choses en place pour justement pouvoir pérenniser tes rentrées d'argent?
Aujourd'hui, je suis pas... Je pourrais ne pas bosser pendant un moment,
ouais.
J'ai fait attention.
Ouais, c'est ça ma question. Est-ce que tu as eu une stratégie, tu vois, ou d'investissement, ou je sais pas, tu vois.
J'ai pas eu de stratégie pendant très longtemps.
Ce qui est un peu normal.
En fait, aussi jeune, voyager partout, avoir des amis partout et
tu kiffes, quoi.
Tu kiffes, mais tu dépenses aussi beaucoup ton argent finalement.
Ouais, mais c'est un peu normal.
S'il fallait que je sois du jour au lendemain à Paris ou à New York et tout. Et en même temps, je pense que c'est génial que je me sois permis de dépenser l'argent que je gagnais.
Bien sûr.
Et c'était un réinvestissement parce que je me suis permis de vivre beaucoup.
Ouais, et confortablement, et puis c'était mérité. Ouais.
Après, jamais je me serais acheté un sac, en vrai, hein, jamais je me serais acheté un sac à l'époque à 1000 balles, alors que je pouvais complètement le faire. Mais par contre, me payer un billet aller-retour pour aller à Art Basel avec mes amis en VIP ou des trucs comme ça, je prends un billet, c'est normal.
Ouais.
Et puis je comprenais très bien que, en fait, pour moi, un des trucs les plus sains au monde, quand on sait que, par exemple, Aulnay-sous-Bois, moi j'ai des amis et des proches qui, encore aujourd'hui, n'ont toujours pas quitté Aulnay-sous-Bois. Et aussi, parce que c'est pas parce qu'ils le peuvent pas. Hein. Il y en a, ils peuvent très bien décider. Mais c'est dans la culture ou juste dans les habitudes, il n'y a pas de raison de quitter Aulnay-sous-Bois.
Ouais. C'est une mentalité.
Ouais. Et moi, à l'époque, à Aulnay, je me rappelle, les filles, elles étaient là. Oh, mon copain m'amène à Paris ce week-end.
Moi, je t'emmène à Miami.
Non, mais Paris, c'est à 20 minutes en RER.
Ouais.
Tu peux y aller.
Ouais, mais il y a une vraie frontière en vrai.
Oui, c'est ça. On le sait. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai jamais vécu dans les frontières. Je venais déjà d'ailleurs, de maman et tout. Ouais. Mais juste de se dire, de comprendre qu'il y a des gens qui quittent pas leur quartier. Mm. C'est à moi très tôt, je me suis dit, mais c'est un luxe incroyable que j'ai.
Ouais.
Que de me laisser m'acheter des billets pour aller à un tel endroit, rencontrer une telle personne, voir une telle ville et tout. Enfin, je me remercie encore moi-même de m'être laissé faire tout ça à 20 ans.
Ouais, c'est hyper important.
Et ensuite, après 22 ans, c'est là que j'ai commencé à mettre de côté
un peu les choses.
Et puis aussi, j'ai rencontré un ami, je crois que vous le connaissez, Cyril Paglioni.
Cyril Paglino.
Et je l'ai rencontré à LA. Mm. Et à LA, déjà, il était impressionnant. Mais c'est 3 ans plus tard, je crois, enfin, en tout cas, j'avais dans les 25 ans, où je dis, mais attends, je vais lui poser quelques questions. Et c'est lui qui m'a amené dans le monde... De la bourse et de la crypto-monnaie.
Ouais, de la tech et tout. Hein.
Exactement. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une... C'est, en fait, moi, j'y passe franchement minimum 1 heure par jour. Et depuis tout ce temps-là, je pense que c'est un énorme changement dans ma vie aussi.
Mm.
Investissement en crypto surtout.
Ouais.
Et voilà.
C'est cool. Okay. Merci Cyril.
Ouais. Bah, je lui ai dit, hein, pas plus tard que la semaine dernière.
Ah, il est cool. Mais, donc on l'invite.
Ah ouais, carrément. Ouais,
c'est un bon gars.
Ouais, ouais. Bah, il est parti à Milan aujourd'hui, il revient dimanche.
On va prendre un petit rendez-vous.
Ouais. Ouais. Okay, bah, c'est cool, quel parcours.
Ouais,
wow.
Ouais, ouais. On a le parcours.
Ouais. Dernière question qui m'intrigue, ouais, qui me fascine. Comment, avec tout ce parcours, avec tout ce vécu, toutes ces rencontres que tu as faites, tous les jobs de ouf, enfin, incroyables que tu as fait, franchement, je pense qu'on va même les poster sur le compte Instagram de Cast pour que les gens se remémorent ces trucs-là, parce que ça m'a donné envie de les revoir. Comment t'es resté aussi humble et aussi gentil? Moi, c'est un truc qui me fascine chez toi.
C'est pas une grande valeur des gens de la mode, la gentillesse.
Ben, ok.
Je t'ai déstabilisé.
Franchement, je pense que ça, c'est ma mère.
Ouais.
Parce que ma mère, qui elle était danseuse et elle passait à la télé et tout ça. Et puis, j'ai rencontré plein de gens qui, à l'époque, étaient plus ou moins connus quand j'étais petit. Ma mère, elle a jamais changé de comportement. Mmh. Elle m'a toujours montré que... Enfin, ce qui compte, c'est vraiment ce que tu fais, ce que tu dégages. Moi, ma mère, elle a toujours été très intègre et parfois, il y avait des gens qu'elle ne sentait pas, elle l'ont montré tout de suite.
Mmh.
Tout de suite.
C'est ma copine, ça.
Et je fais, ah ouais. Et c'est plus tard que j'ai compris toutes ces émotions, tous ces moments où elle ne laissait pas rentrer ça dans son univers ou des choses comme ça. Puis ma mère, aujourd'hui, faut la voir, elle est comme ça en sourire tout le temps et elle a une aura de joie tout le temps. Et d'ailleurs, elle a adopté mon petit frère qui a bientôt 5 ans.
Ouais.
Qui est un petit Algérien qui s'appelle Kaïl. Et qui c'est une boule de love comme pas possible.
Mm.
Et voilà, je pense que c'est ma mère. Et puis après aussi, j'ai eu des expériences très jeunes où j'étais à l'école de danse et il y avait un mannequin dans mon école de danse quand j'étais encore un peu bouboule qui venait de faire un shooting pour un magazine. Et il avait fait 2 pages dans un magazine.
Mmh.
Il avait complètement changé de comportement. C'était devenu la star de l'école, mais dans sa tête, pas dans la nôtre. Et il se sentait plus.
Ouais.
Mais moi, j'avais 17 ans et je me dis, mais jamais de ma vie, je ferais ça.
Ouais.
C'est pas possible.
Ouais, mais tu sais, entre se le dire quand il se passe pas grand-chose dans ta vie et tenir cette ligne de conduite quand tu fais des pubs chez Alimard, c'est pas, tu vois, c'est pas la même chose. Hein.
Ouais. Ouais. Après, je pense que j'ai eu sûrement des moments où par instinct de protection ou quoi, j'ai peut-être dû avoir l'air arrogant.
Ouais.
Mais ouais, je pense que j'ai eu de l'aide et beaucoup d'exemples.
Ouais, c'est remarquable permis, en tout cas.
Ouais. Et sinon, j'ai aussi je joue le principal sur Salto, sur Fugueuse, en ce moment, qui est toujours number one, où je joue un proxénète.
Wow.
Pimp. Ouais, exact. Si vous voulez voir.
On peut aller voir ça, ok.
Bon, trop cool. Mais on va finir le podcast avec nos petites questions gimmicks. Yes. Tu réponds du tac au tac, okay. À la cool. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné.
Ou que t'aimerais donner ou...
N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Okay. C'est simple, mais ouais. efficace.
Est-ce que t'as un talent caché?
Un talent caché?
Caché, ouais. Un truc que tu sais extrêmement bien faire ou qui est complètement insolite?
Quand j'étais petit, plutôt que de sortir dehors, je passais des heures et des heures à dessiner.
Ah.
Mais
c'est vrai que tu fais de la peinture, toi, maintenant.
Oui, en passe-temps, ouais, carrément. Ouais. Et je le montre pas, mais c'est vrai que j'ai passé, je crois, 5 ans de ma vie à faire que ça. Et donc,
tu dessinais quoi?
J'ai commencé à dessiner Pokémon, ensuite les mangas.
La base.
J'allais dire un petit Dragon Ball Z, c'est vrai, tout le monde est passé par là.
C'est sûr, je les ai tous. Et puis après c'est parti en cacahuète et c'est devenu génial d'ailleurs. Et donc, ouais, aujourd'hui je suis mon dessin. Trop mais je l'utilise pas.
Cool. Est-ce que t'as un guilty pleasure?
Guilty, faut que ce soit guilty.
Ouais, faut que ça soit guilty. Ou assumé, hein.
Guilty pleasure.
Ton petit secret pleasure.
C'est dur parce que je suis toujours dans le contrôle, mais...
Un petit cigare, non? Je te vois faire un petit cigare, c'est le petit kiff, ça,
ayant,
non?
Ayant arrêté de fumer depuis quelques années... Le cigare, de temps en temps, ça me fait grave kiffer. Mais bon, je veux pas inciter qui que ce soit.
Chacun son truc.
Et je suis accro aux frites aussi.
Okay. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a un compte Insta sur lequel tu te butes ou que t'as envie de promouvoir ici? Un truc que t'aimes bien regarder hein?
Je vois ce que tu veux dire. C'est compliqué. Non, j'ai pas un compte Insta sur lequel je me bute, mais par contre, il y a une marque que j'adore.
Ouais, c'est laquelle?
Bien sûr, j'aime beaucoup. Il y a une marque qui s'appelle Elliot Emile.
Ouais.
Et franchement, je les suis depuis le tout début.
Ils sont très très cool, les deux.
Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a où ils auraient pu stagner à un moment, et en fait, ils ont passé ce cap. Et là, je trouve qu'à chaque fois, à chaque nouveau défilé, ils évoluent. Et je pense
leur dernier défilé à Paris, c'était très très cool.
Moi, je valide. Et je kiffe cette marque de ouf.
Cool.
Et ils sont très gentils, effectivement.
Ouais, trop sympa.
Ok. Je termine. Dernière question. Est-ce qu'il y a une tendance mode que tu n'as jamais compris? Ou un truc qu'on ne te verra jamais porter?
Tendance mode. Intéressant.
Parce que Will, il a toujours eu ses petits looks quand même.
Ouais. Et franchement, j'ai toujours tellement changé de look aussi.
Ah ouais?
Ah ouais. Parce que quand j'étais petit, j'étais tout en baggy. J'avais même mes petits sarouel, mes petits trucs et tout. J'étais très hip-hop. Ensuite, je suis devenu très dandy, efféminé. Ensuite, j'ai mélangé tout. Et donc, un style, une tendance qui me déplaît.
Pas qu'il te déplaît, mais que tu ne verrais pas porter, quoi.
Je crois que les hugs... Je crois que les hugs, ce serait très dur à porter pour moi.
C'est vraiment 1 sur 2. Hein. Entre ça et les crocs, c'est un épisode sur 2.
Les crocs, ça va. Les hugs...
Ça passe pas.
Ouais.
Merci mille fois, Willy. C'était super cool de t'avoir.
Merci à vous.
Trop cool.
Ouais.